إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله سبحانه وتعالى جميعا en cette soirée du mercredi 17 ذو القعدة 1433 de l'Hégire, correspondant au 3 octobre 2012. بإذن الله تعالى. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui on va commencer donc une série de cours. C'est le premier cours aujourd'hui sur un petit livret qui s'appelle Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et je prendrai aussi d'un autre livre qui s'appelle Madarij Salikin. En français, le sentier des itinérants. Naam. Avant de commencer donc ce livre, je dirais qu'en préambule, Inch'Allah ta'ala, que, bon, deux ou trois choses. La première, c'est que on va rapporter donc des récits des pieux prédécesseurs, et que ces récits-là ne sont pas soumis aux mêmes règles que le hadith en ce qui concerne l'authentification, non. Ni même yani, aux mêmes règles que les récits des compagnons, car yani, les hadiths doivent être authentiques par rapport aux sahaba aussi. Mais par rapport à cela, ce ne sont que yani, des savants, des pieux prédécesseurs, etc. Il n'y a pas d'ailleurs, même si on voulait, ce n'est pas toujours qu'on arrive à savoir si c'est authentique ou si ce n'est pas authentique. Non. D'ailleurs, même Cheikh Al-Albani rahmallah, a dit ça, Cheikh Al-Albani rahmallah, il a dit dans un de ses livres, il a dit: je me suis permis de rapporter quelques récits et propos dont la chaîne de transmission comporte une faiblesse ou un inconnu, car ces récits ne sont pas considérés comme les hadiths attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est obligatoire d'adopter pour religion, et ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. Non, ils ne sont mentionnés que comme un témoignage. Il a dit ça dans Mukhtasar al-Ulu, page 20. Mukhtasar al-Ulu, page 20. Contrairement, comme j'ai dit, au récit des rapportés des compagnons, qui sont quoi? Qui sont des preuves légales, selon l'avis authentique des savants. Deuxième point, c'est qu'il ne faut rien adopter de ce qui est des récits des pieux prédécesseurs, mais qui s'opposent au Coran ou à la Sunna. Car tout propos ou acte contraire au Coran ou à la Sunna n'est pas considéré. Il n'est pas valide, quel qu'en soit son auteur. À titre d'exemple, ce qu'on rapporte de l'imam Waqi' ibn al-Jarrah, rahimahullah, un grand savant, qui jeûnait continuellement chaque jour et lisait tout le Coran, intégralement le Coran, chaque nuit. Et pourtant, l'imam al-Dahabi, rahimahullah, dans son livre Sir, tome 9, page 143, qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce que faisait ce grand savant, c'est-à-dire jeûner tous les jours et lisait toutes les chaque nuit, lisait tout le Coran. Qu'est-ce qu'il a dit? Dahabi rahimahullah, il a dit: il est rapporté authentiquement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de jeûner continuellement et a interdit de réciter le Coran en moins de 3 jours. Il a dit: la religion est aisance, et le suivi de la sunna est prioritaire sur toute autre chose. Sur toute autre chose. Il a dit qu'Allah Ta'ala agrée Waqi'a. Qu'Allah Ta'ala agrée ce savant. Et où trouver un semblable à Waqi'a? Mais il a dit: on accepte et on rejette de toute personne l'erreur du savant, n'est donc pas un exemple. et on ne le blâme pas pour ce qu'il a accompli en faisant son effort d'interprétation des textes. Nous demandons à Allah Azzawajal sa clémence. Allez, la deuxième chose que je voulais faire remarquer. Et je voulais aussi faire remarquer une troisième chose, mais j'ai oublié, attendez ce que c'est. Non, la troisième chose, c'est qu'Inch'Allah Ta'ala aussi, quand je vais lire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, par exemple, qui est contraire à la sunna, Inch'Allah Ta'ala, je la montrerai, bi'idhnillahi Ta'ala. Et s'il y a aussi des choses basées sur la sunna, on montre aussi la sunna. Non. Tout en mettant dans la tête que la plupart de ce que je vais dire, que ce que font ses pieux prédécesseurs, ils le font bien sûr basé sur des textes, c'est pas des choses de leur tête. Mais, yani, c'est pas cité quels sont les hadiths, c'est pas cité quels sont les hadiths. Car le but ici, c'est juste de citer comment vivaient les pieux prédécesseurs pour qu'Inch'Allah Ta'ala, yani, on les suive, bi'idhnillahi Ta'ala. Al-Muhim, autre chose pour terminer. Pour terminer avant de commencer. Ce que je vais lire, bien sûr, moi je suis comme vous. Je suis comme vous. Ça veut dire que je lis seulement. Je lis seulement. Ça ne veut pas dire que ce qu'il y a dans ce livre, que moi je l'applique. Non, moi je suis comme vous. Je fais ce que je peux et ce que je ne peux pas, je ne le fais pas. Et j'ai des points hauts, des points bas, des faiblesses, des ceci, de cela, comme vous. Donc ça ne veut pas dire que ce que je lis, que parce que moi je l'applique. Ça ne veut pas dire que moi je l'applique, bi'idhnillahi ta'ala. Donc. Le premier chapitre, Inch'Allah Ta'ala, la sincérité envers Allah. Donc j'ai oublié de le mettre dans la bannière. Muslim, la sincérité envers Allah. Inch'Allah Ta'ala, tu le mets dans la bannière, j'ai oublié de le mettre. On demanda à Hamdoun al-Qassar, un grand savant, des pieux prédécesseurs, on lui demanda pourquoi les propos des pieux prédécesseurs sont-ils plus profitables que les nôtres? Pourquoi les propos des pieux prédécesseurs, quand ils parlent, quand ils font des cours, quand ceci, quand cela, c'est plus profitable pour les gens et pour les cœurs aussi que nos propos? Pourquoi? Il répondit, car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément du miséricordieux, alors que nous parlons pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. Je répète, pourquoi les pieux prédécesseurs, on lui a posé cette question, pourquoi les pieux prédécesseurs, leurs propos étaient profitables et ça touchait les cœurs. Il a répondu, car ils ont parlé pour la gloire de l'islam et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous, quand nous parlons, on parle pour la gloire des âmes, la recherche de ce bas monde et l'agrément des créatures. C'est ça la grande différence. C'est Sefet Safwa, tome 2, page 122. Et là, j'ouvre une parenthèse pour dire, je ne vais pas chaque fois dire où se trouve la chose. Mais vous, quand vous entendez une chose, si vous voulez savoir où elle se trouve, vous me le dites. Comme ça, à la fin du cours, je vous dis, ça se trouve dans tel livre, telle page. Car ça va prendre du temps. Mais chaque chose que je dis, à quoi? À son lieu où elle se trouve. Sauf moi, je le saute pour gagner du temps, c'est tout. Donc, vous avez remarqué que quand quelqu'un parle pour Allah subhanahu wa ta'ala, sa parole fait de l'effet. Mais quand il parle pour l'agrément des gens, et pour le bas monde, pour un bien de ce bas monde, yani, ses paroles ne vont pas loin. Ses paroles ne vont pas loin. Une seconde, Allah. De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'ont dit n'œuvre pas pour autre qu'Allah, sinon il te confiera à celui pour qui tu as œuvré. Naam, n'œuvre pas pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sinon si tu vas œuvrer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah ta'ala va te confier à celui pour qui tu as œuvré. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, délaisse une personne et se détourne d'elle et la laisse avec la personne pour laquelle elle a œuvré, elle aura perdu dans cette vie, dans l'au-delà. Naam. Car dans cette vie, et la personne ne peut rien faire pour toi, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala veut. Qu'en est-il dans l'au-delà? Dans l'au-delà, c'est pas possible. Pas possible qu'elle puisse faire une chose, car dans cette vie, elle peut pas. Comment dans l'au-delà? Donc, il dit attention, il faut, il y a attention que tu œuvres, que tu fasses des actions pour un autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il va te confier à cette personne. Il va te dire, yani, alors va prendre quoi? Va prendre, yani, ta... Badil al-Uqayli, rahimahullah, a dit, celui qui vise Allah subhanahu wa ta'ala à travers son acte, Allah ta'ala alors tournera son visage et le cœur des serviteurs vers lui. Alors que celui qui œuvre pour autre qu'Allah ta'ala, il détournera de lui son visage et le cœur des serviteurs. Donc, celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tournera son visage envers lui et en même temps, le cœur de qui? Le cœur des serviteurs et des êtres humains. Car c'est lui qui détient tous les cœurs entre deux doigts, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique, qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala aime une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Jibril et lui dit, j'aime cette personne. Il la cite avec le nom. Il lui dit, aime-la. Il demande à Jibril de l'aimer. Ensuite, Jibril va l'aimer. Il va demander aux autres anges, il va leur dire, Allah Ta'ala aime telle personne. Et il vous demande de l'aimer. Ensuite, il va descendre son amour, l'amour de cette personne, dans les cœurs des serviteurs. C'est pour ça, il ne faut pas vous étonner comment il y a une personne, beaucoup de gens l'aiment, alors qu'elle ne fait rien. En fait, elle fait quoi? Elle a la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala l'a aimé. Allah ta'ala l'a aimé. Vous voyez pas comment que des millions de gens, si c'est pas des milliards, aiment les savants. Subhanallah. Et il y a des gens qui donneraient tout l'or du monde pour qu'on les aime, et les gens ne les aiment pas. Et les gens ne les aiment pas. Non. Muhammad ibn al-Qasim, alayhi rahmatullah, a dit, j'ai côtoyé Muhammad ibn Aslam, un savant, plus de 20 ans. Et je ne l'ai jamais vu accomplir deux unités de prière surérogatoires autres que celles du vendredi. Autres que celles du vendredi. Jamais je l'ai vu faire la nafila. Jamais. Je l'ai entendu une fois jurer. Il a dit, par Allah, si je pouvais accomplir une prière surérogatoire en un lieu où même mes anges, mes deux anges, ne me verraient pas, je le ferai, de peur de tomber dans l'ostentation. Il a dit, il entrait dans un de ses appartements, de ses pièces, bien sûr, de ses chambres, et fermait la porte, si bien que je ne savais pas ce qu'il y faisait. Jusqu'à ce que j'entende un de ses jeunes enfants parler de ses pleurs, qu'il était en train de pleurer. Et lorsqu'il voulait sortir, il lavait son visage, s'appliquait du kohl. Et ainsi, on ne voyait pas les traces de ses pleurs. Il envoyait également des vêtements à des gens. Il donnait des vêtements à des gens, naam, en aumône. Et il disait au porteur, fais en sorte que personne ne sache qui les a envoyés. Sir 12-201. Fais en sorte que personne ne sache qui les a envoyés. Subhanallah al-Azim. Donc, cette personne a dit que jamais elle faisait, yani, jamais on l'a vu faire, salat nafila devant les gens. Toujours nafila, il l'a fait, il disait, quand il était seul, il a dit, sauf les deux rak'at du vendredi. Et il a dit, nam, tellement il pleurait, etc., jamais il montrait qu'il pleurait. Jamais il montrait qu'il pleurait. Et, quand il faisait l'aumône, il envoyait quelqu'un, il lui dit, va distribuer ça aux pauvres. Il lui dit, mais attention, fais de sorte que personne ne sache qui t'a envoyé, qui t'a envoyé. C'est ça la sincérité. Je veux donner quelqu'un à un pauvre. Non, c'est pas la peine que le pauvre sache de qui ça vient. Quand il sait de qui ça vient, maadish, c'est permis, c'est pas interdit. Mais quand il sait pas, c'est encore plus sincère. La personne ne sait pas que c'est moi qui lui ai donné, fsabillah, subhanallah al-azim. c'est que vraiment je l'ai fait pour Allah. Vraiment. Car si j'avais voulu, j'aurais fait de sorte qu'elle sache. Pour que peut-être qu'elle me dise merci, elle me dise barakallahu fik. Ou là, du moins qu'elle sache. Qu'elle sache. Ça me fait plaisir qu'elle sache. Qu'elle sait. Mais subhanallah, il me dit attention, fais de sorte que personne ne sait qui t'a envoyé avec ses vêtements. C'est ça l'ikhlas, c'est ça la sincérité. El Hassan, rahimallah, a dit, El Hassan Basri, c'est pas la peine de vous dire qui c'est et combien Allah subhanahu wa ta'ala l'a élevé en grade. El Hassan Basri a dit, j'ai connu des gens qui ne pouvaient accomplir une œuvre et l'afficher. Car ils savaient que l'œuvre la plus préservée de Satan est celle accomplie en secret. Subhanallah. Non. Ils savaient que l'œuvre la plus préservée de Satan, c'est laquelle? C'est celle qui est accomplie en secret. Il a dit, l'un d'eux pouvait avoir des invités et accomplir la prière derrière eux sans que ceux-ci ne s'en aperçoivent. Non. Je peux avoir des invités, ils passent la nuit chez moi et ils dorment, etc. Ils ne savent pas que j'ai prié après eux. Ils ne savent pas. Non. Eux, ils ont prié en nafila ou là, mais ils ne m'ont pas vu prier. C'est pas la peine que je suis obligé que j'aille prier avec eux. Ils s'endorment et je vais prier. Non. Yazid ibn Abdullah. Cheikh Rahimahullah a dit, nous allions voir Amir ibn Abdil Amr, afwan, nous allions voir Amr ibn Abdillah, Rahimahullah, alors qu'il priait dans une mosquée. Lorsqu'il nous voyait, qu'est-ce qu'il faisait? Il raccourcissait sa prière, se tournait vers nous et disait, que voulez-vous? Et il réprouvait qu'on le voyait prier. Il réprouvait qu'on le voyait prier, c'est-à-dire nafila. On rapporte que lorsqu'on rentrait chez Rabi' ibn Khuthaym, on rapportait que lorsqu'on rentrait, certains gens rentraient chez Rabi' ibn Khuthaym, et que le Coran était dans ses mains, il était en train de lire le Coran par exemple, et on rentre chez lui, yani, à l'improviste. Qu'est-ce qu'il faisait? Il le cachait. Il cachait le Coran. Non. Par exemple, qu'en est-il maintenant s'il savait qu'il allait rentrer? Si lui ne savait pas, il rentre à l'improviste. Non. Il le trouve dans la pièce ou là, qu'est-ce qu'il fait? Il cache le Coran quand il les voit venir. Non. Pourtant, il ne lisait pas pour eux, il lisait pour Allah. Il ne savait même pas qu'ils allaient venir. Il aurait pu dire, en bas, qu'est-ce qui se passe? Mais lui, tellement yani, il ne veut pas. Qu'on le voit en train de lire, il cache le Coran. Comme ça, quand ils vont rentrer, ils ne savent pas qu'il était en train de lire. Ils croient qu'il était assis, par exemple. Abd Samad ibn Ma'qal rapporte. On demanda à Wahb ibn Munabbih. On lui demanda, oh Abu Abdallah, deux hommes accomplissent la prière. L'un prolonge la station debout et le silence. Et l'autre prolonge plus la prosternation. Lequel est le meilleur? Lequel des deux? Celui qui prolonge la station debout ou bien celui qui prolonge la prosternation? Il a répondu, celui qui est le plus sincère envers Allah, c'est lui le meilleur. Celui qui est le plus sincère envers Allah, c'est lui le meilleur. Tu peux prolonger la station debout plus que celui qui se prosterne. Ou alors prolonger la prosternation beaucoup plus que celui qui est debout, mais l'autre est plus sincère que toi. L'essentiel, c'est quoi? C'est la sincérité dans tout ça. La sincérité dans tout ça. Asim rahimullah rapporte. Lorsque Abu Wa'il priait chez lui, il sanglotait. Et si on lui avait offert tout ce bas monde, pour qu'il agisse de la sorte, alors que quelqu'un le voit, il ne l'aurait jamais fait. Il ne l'aurait jamais fait. Abdullah ibn Abi Hudayl a dit, rahimallah, il a dit, arriva l'heure de la prière et on demanda à un cheikh de s'avancer pour la diriger. On demanda à un cheikh de s'avancer pour diriger la prière. Il n'y avait peut-être pas l'imam. Il refusa. Ensuite, après la salat, elle nous a fait passer un autre. On lui demanda, qu'est-ce qui t'a empêché de t'avancer? Qu'est-ce qui t'a empêché de t'avancer et de guider les gens? Il répondit, j'ai craint que quelqu'un passe et ne dise, ils lui ont demandé de diriger la prière car il est le meilleur d'entre eux. Nam, je me suis dit, non, j'avance pas. On ne sait jamais, quelqu'un va passer dans la rue et il va dire cette phrase. Il va dire, donc ils lui ont demandé de diriger la prière car il est le meilleur. Alors que Allah Ta'ala sait que je ne suis pas le meilleur. Nam. Et il n'a pas voulu diriger la prière. Imran ibn Khalid, rahimahullah, rapporte. Il dit, j'ai entendu Muhammad ibn Wasi', rahimahullah, dire. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'homme, il parlait de lui-même, pleure depuis 20 ans alors que sa femme est à ses côtés et ne le sait pas. Non, quelqu'un peut pleurer pendant 20 ans, pas pleurer du matin au soir, c'est-à-dire dans la salade, quand il est seul et comme ça, non, pendant 20 ans alors que sa femme, non, elle est juste à ses côtés. Et elle ne le sait pas. Ce sont des larmes, larmes qui l'essuient, etc., sans montrer. Larmes sans montrer. Tellement il est sincère, il voudrait pas que yani, même sa femme, qui est la plus proche de lui, qu'elle sache qu'il est en train de pleurer. C'est pour ça que Al-Kharibi rahimahullah a dit, les pieux prédécesseurs recommandaient que l'homme est une œuvre pieuse cachée, dont ni son épouse, ni personne d'autre n'a connaissance. Ça se trouve dans Sir 9, 349. Sir de Zahabi. Naam. Qu'est-ce qu'il a dit? Les pieux prédécesseurs recommandaient que l'homme et ni personne d'autre n'a connaissance. Ça veut dire que même la femme, on lui recommande qu'elle est quoi? Qu'elle est une œuvre pieuse qu'elle fait en cachette au point où ni son époux ni personne d'autre n'a connaissance. Ce n'est pas obligé pour quelqu'un qui est marié que yani, ma femme doit savoir que, par exemple, que j'ai prié ou que je vais prier la nuit aujourd'hui. Surtout si c'est, par exemple, que, par exemple, elle ne peut pas se lever, ou qu'elle n'a pas l'habitude, ou qu'elle ne veut pas se lever, ou qu'elle est malade, ou ceci. Mais ce n'est pas la peine qu'elle sache que yani, je vais dans l'autre chambre, je vais prier. Ce n'est pas la peine qu'elle sache. Non. Et il est possible qu'une personne, par exemple, confirmée. Alhamdoulillah. Donc, par exemple, si un homme, par exemple, il est riche, et qu'il aide, par exemple, une famille, qu'on faisait Abou Bakr, qu'on faisait Omar, on va le voir plus tard. Par exemple, ce n'est pas obligé qu'il dise à sa femme. Ce n'est pas obligé qu'il dise à sa femme, par exemple, qu'il y a une famille que j'aide. Que j'aide chaque mois, que je donne tant d'argent. Non, c'est une chose, une action pieuse, non, que je fais juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et la même chose pour l'épouse. Il est possible qu'elle fasse une chose sans que son mari le sache. Et qu'il ne la saura que Yom al-Qiyamah. Non. Ahmed ibn Hanbal rahimahullah a dit, Allah azza wa jalla m'a élevé. Abdullah ibn al-Mubarak, qu'en raison de la crainte d'Allah qu'il éprouvait. Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah, Ayyub al-Sikhtiyani rahimahullah, un très grand savant des plus prédécesseurs, priait la nuit et cachait cette chose qu'il était en train de prier la nuit. Et au matin, qu'est-ce qu'il faisait? Il élevait la voix comme s'il venait de se lever. Le matin, par exemple, quand il voit sa femme ou la venir dans la chambre où il est, il fait Zama comme s'il il allait se lever Zama. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'd ma amatana wa Il n'est pas en train de mentir, il est en train de faire une invocation, c'est tout. Et elle va croire quoi? Qu'il vient de se lever. Alors que ça fait 2 ou 3 heures qu'il est en train de prier la nuit. Tellement ils étaient sincères et qu'ils voulaient faire la chose seulement pour Allah subhanahu azzawajal. Entre parenthèses, je dis toujours, je dis, si sa femme le voit ou là, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Mais je dis, eux, comment qu'ils étaient les pieux prédécesseurs et comment qu'ils insistaient pour que la chose soit vouement Allah subhanahu azzawajal. Omar ibn Thabit, rahimullah, rapporte. Il a dit, lorsque Ali ibn al-Hussein, vous connaissez le Hussein, c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, le gendre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, le Hussein, a un fils qui s'appelle Ali. Donc, lorsque Ali, ce Ali, le fils de Hussein, rahimahullah, décéda, on le lava. Et quand on le lava, on vit sur son dos une trace noire. Des gens demandèrent, qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cette trace? Et on leur répondit, il portait des sacs de farine de nuit sur son dos et les distribuait aux pauvres de Médine. La nuit, il prenait des sacs de farine, chaque nuit comme ça, et il allait les distribuer aux pauvres de Médine, au point où ça allait, c'est une trace comme ça noire sur son dos. Mais bien sûr, personne ne le savait, sauf peut-être yani ceux qui ont répondu ici. Peut-être sa femme, peut-être femme. Seulement ceux qu'il voyait sortir de la maison avec ses sacs. Ja'far ibn Zayd al-Abidi, rahimahullah, rapporte. Il a dit, un homme passa devant un groupe de personnes qui firent ses éloges. En les lui faisant entendre. Un homme passa devant des gens qui lui firent des éloges à voix haute. Yani, il les a entendus. Alors, lorsqu'il les dépassa, il s'arrêta, tourna son visage vers le ciel et dit, « Oh Allah, si eux ne me connaissent pas, toi tu me connais. » Naam, ya Allah. Si eux, ils ont dit ça, naam, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Mais toi, Allah, tu me connais. Tu sais que ce qu'ils ont dit sur moi, c'est pas vrai. Vous avez compris? Si c'était nous, par exemple, quelqu'un te fait des éloges, même si tu n'as pas yani, en toi ces éloges, ça te fait plaisir, ça te plaît. Naam, ça te plaît, tu te sens, mashallah, tu sens l'autosatisfaction en toi. L'ujb ou l'i'jab. Mais celui-là, yani, il n'a rien pu leur dire, mais il a parlé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit, Allah, si eux, ils ne me connaissent pas, ils disent des choses sur moi qui ne sont pas vraies, toi, tu me connais. Toi, tu sais que je ne suis pas comme ça, et que je suis faible, et que je suis pécheur, et que je suis ceci, cela. Naam. Al-Hassan, rahimahullah. On revient à Al-Hassan al-Basri, rahimahullah. Il a dit, lorsque, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs, se réunissaient pour le rappel, pour faire un rappel, et qu'une larme venait à l'un d'eux, une larme des yeux venait à l'un d'eux, il la retenait. Il la retenait. Puis si elle revenait, il la retenait de nouveau. Et lorsqu'il craignait de ne plus pouvoir la retenir, il se levait et s'en allait. Il se levait et s'en allait. Naam. Je veux pas qu'il voit que je suis en train de pleurer. Naam. Je fais mon maximum pour qu'il ne le sache pas. À chaque fois que j'ai envie de pleurer, je me retiens. Si maintenant, là, ça va couler, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève. Ou bien, il fait semblant d'aller aux toilettes, ou là, dans la salle de bain, là, juste pour essuyer la larme, et revenir. Ça me rappelle ce que font certains gens, et beaucoup de gens de la masse. Ce qu'ils font, yani, dans les mosquées, pendant les tarawih. Je ne sais pas s'il y a cette chose ou il n'y a pas. Mais chez nous, ici, les gens de la masse, les gens que tu ne vois que pendant le ramadan, qui ne reviennent jamais après le ramadan, tu les vois quand ils commencent à faire les doigts, et surtout le qunut, je dis pas ils pleurent, je dis ils gémissent. Oh, 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 subhanallah al-azim, subhanallah al-azim. Vous n'avez pas ça chez vous, musulmans, vous n'avez pas. Si vous n'avez pas, on va vous envoyer un spécimen ou deux. Naam, subhanallah, des gens qui croient, pas chez vous. Pas chez toi. Non, chez vous, c'est-à-dire dans vos mosquées. Subhanallah adim. Quand c'est le Coran, quand c'est le Coran, il pleure pas. C'est le Coran, il pleure pas. Quand c'est des doigts avec comment qu'on dit ça, si je puis dire, avec mélodie. C'est pas doua normal qu'on faisait le prophète aslam. Non, c'est pas comme ça. C'est avec, comme par exemple, genre la fessie. Comme genre la fessie, c'est-à-dire en chantonnant. En chantonnant. Ce qui est bid'a entre parenthèses. Tu vois, les gens viennent plus, ils quittent la mosquée. Ils viennent seulement pour la nafila. Mais, Allah aidé, place maudite, voilà, en place maudite. S'ils savaient comment quitter les selfs. Comment qu'ils essayaient de retenir leurs larmes, etc. Maadish, j'ai bien dit les gens de la masse. J'ai bien dit les gens de la masse. Alors que nous, on est en train de parler de qui? Des prédécesseurs des Yanni et de leurs savants. Enmouem. Waqi'a rahimahullah a dit. Waqi'a rahimahullah a dit. Un grand savant et un grand juge a dit. Écoutez bien ce qu'il a dit. Interrogez. Interrogez. Alors que l'on comprend, interroger, alors que l'on comprend la chose, est une forme d'ostentation. Rien. Interroger, alors que tu as compris, mais tu veux interroger, c'est une forme d'ostentation. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quand c'est parmi les gens, tu es dans une assise, quelqu'un est en train de faire un cours, tu as compris, mashallah, mais tu veux interroger. Tu veux jamais interroger. Pourquoi tu interroges? C'est une forme d'ostentation. Allah Ta'ala sait que peut-être tu interroges car tu n'as pas compris. Mais s'il a bien dit, il a dit interroger alors qu'on a compris. Donc qu'est-ce que tu veux? Tu veux que les gens disent, Mashallah, il a du courage. Il pose les questions. Mashallah, sa question, elle est Mashallah. Et puis il parle bien l'arabe ou bien le français. Mashallah. Et puisqu'il interroge, il interroge beaucoup. C'est que donc, c'est quelqu'un qui lit. Car celui qui bouquine pas, celui qui lit pas, il n'a pas de questions, vous savez ça. Quelqu'un qui ne lit pas les livres, ou là n'écoute pas les cours, il n'a jamais de questions. Toi, tu parles et lui, il avale tout ce que tu dis, il n'a aucune question, il n'a pas de problème, pas de contradiction dans sa tête. Mais quelqu'un qui lit beaucoup, ou qui écoute beaucoup de cours, quand il va écouter quelqu'un, il aura beaucoup de questions à poser. Car il a lu des choses et il trouve que c'est pas comme ce que dit cette personne. Ou là, c'est pas comme lui. Donc c'est normal qu'il veut poser des questions. Donc il a dit que si tu poses des questions, alors que tu as compris, c'est une forme d'ostentation. C'est une forme d'ostentation. Ayoub, Sirti, attendez où est-ce qu'on est? Non. Non. Donc, Ayoub Sirtiyani, rahimahullah, était sensible et pleurait. Mais il aimait cacher cela à ses compagnons. Il n'aimait pas pleurer devant eux. Si bien qu'il tenait son nez comme s'il était enrhumé. Non, quand il voulait pleurer, non, il tenait son nez, comme quoi, yani, il est enrhumé. Et lorsqu'il craignait de fondre en larmes, lorsqu'il craint vraiment de fondre en larmes, qu'est-ce qu'il faisait? Il se levait. Non, il se levait. Un homme, écoutez bien cette chose-là qui va venir, écoutez bien celle-là. Un homme, non, accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Un homme accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Il allait jusqu'à la Mecque à pied. Quand on dit ça, ça veut dire que peut-être qu'il n'était pas très loin. 100 kilomètres, 200. Non, 100, 200, c'est pas beaucoup à pied, autrefois. Il y a des gens qui partaient d'Afrique. Il y a des gens qui sont partis d'Inde. De l'Inde vers la Mecque. Pourquoi? Vous savez, hein, c'est vraiment un pilier, le Hajj. C'est pas n'importe quoi. Et autrefois, il y avait l'iman, il y avait la foi. Pas la dunya dans le cœur. Non, il y avait la foi, il y avait Kda. Et beaucoup sont morts en chemin. Et le Mouhim. Donc il y avait un homme qui accomplissait chaque année le pèlerinage à pied. Peut-être qu'il était peut-être à 50 kilomètres, peut-être. Hein? Alors, un soir, alors qu'il dormait sur son lit, sa mère lui demanda à boire. Elle lui a dit, mon fils, va me ramener un peu d'eau. Il lui fut pénible de se lever pour apporter de l'eau à sa mère. Il lui fut pénible, vraiment difficile. Comment maintenant je vais lui donner de l'eau alors que je me suis presque endormi, etc. Et à ce moment-là, il se souvint de ses pèlerinages accomplis à pied, qui ne lui causaient aucune peine, qui ne lui causaient aucune peine. Des centaines de kilomètres ne lui causaient aucune peine, alors que quelques mètres pour sa mère, il a trouvé ça pénible. Alors il fit son examen de conscience. Il a commencé à méditer. Pourquoi? Je peux faire 100 kilomètres pour la Mecque et pour ma mère, je peux pas faire quelques mètres. Et il constata que les pèlerinages et les kilomètres qu'il faisait ne lui étaient pas pénibles en raison du fait que les gens le voyaient et le flattaient et le louangeaient. Les gens le voyaient, disaient, Masha'Allah, voilà X qui va chaque année à pied au Hajj. Non, alors que là, quand il va servir sa mère, il n'y a personne qui le voit. Il n'y a pas les gens qui vont lui faire des éloges. Alors il sut qu'il était dupé. Il sut que Shaitan avait joué de lui. Shaitan avait joué de lui. Non, je peux faire 100 km si les gens me voient et me font des éloges et disent, oh, Masha'Allah, il va au Hajj à pied. Celui-là, c'est un pieux, c'est un ascète, Masha'Allah. Mais si ma mère me demande juste un verre d'eau, juste quelques mètres, je peux pas. Je peux pas, il n'y a personne qui me voit. J'ai mon cœur malade. J'ai mon cœur qui est malade. Là, c'est trop tard. Mais au moins, qu'est-ce qu'on va dire? Au moins, regardez cette personne comment, quand elle a su qu'elle pouvait pas, elle a fait ce qu'on appelle un examen de conscience. Elle n'a pas dit, je peux pas et je m'endors. Mais il médite. Pourquoi je peux pas? Pourquoi le Hajj je peux et ça je peux pas? Et il est arrivé, alhamdoulilah, à quoi? À un bon résultat. Il a su qu'il a été dupé. Donc, inshallah ta'ala, donc il va se corriger. Sofiane ibn Uyayna, rahimahullah, a dit, un jour j'ai été touché. J'ai pleuré et je me suis dit, si un tel, en citant un compagnon, si un tel de nos compagnons était là, il aurait été touché lui aussi. Il aurait été touché lui aussi. Puis je me suis assoupi et quelqu'un vint me trouver dans mon sommeil, me donna un coup de pied et me dit, ô Sofiane, va prendre ta rétribution de celui dont tu voulais être vu. Sofiane, tu as dit que si X, tu l'as cité, si par exemple Omar ibn Khattab était vivant, lui aussi il aurait été touché par les larmes que tu as, etc. Donc, va prendre ta rétribution chez Omar ibn Khattab, va chez lui et dis-lui qu'il te donne ta rétribution. Ça veut dire que tu n'as pas pleuré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Bishr al-Harith, rahimahullah, a dit, il suffit comme flatterie de l'âme, suffit comme flatterie de l'âme que tu la blâmes devant les gens, comme si tu cherchais à l'embellir en la blâmant. Et c'est là une manière de l'enlaidir auprès d'Allah Azzawajal. Naam. Suffit comme flatterie de l'âme que tu la blâmes devant les gens. Si tu es sincère, blâme ton âme quand tu es seul. Naam. Enferme-toi dans ta chambre, ou là, va dans la salle de bain, en face du miroir, là, de la glace, et blâme-la. Espèce de ceci, de celle-là. Tu n'as pas en tu es ceci, tu es seul. Naam. Mais il y a des gens qui la blâment, mais devant les gens. Devant les gens, ils commencent à se blâmer, à la blâmer. En fait, c'est là une façon de l'embellir. Naam, tu es en train de l'embellir pour que les gens disent, Masha'Allah, c'est un pieux. Regarde comment il se blâme. Regarde comment il se blâme. Masha'Allah, c'est quelqu'un qui est sincère, celui-là. C'est quelqu'un qui est pieux. Il n'y a que les pieux qui font cela. En fait, tu es en train de l'enlaidir. L'enlaidir, à fond. Tu es en train de l'enlaidir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi' ibn Sabih, rahimahullah, rapporte. Il a dit un jour, Hassan Basri, adressa une exhortation et un homme pleura et gémit. Un homme pleura et gémit. El-Hassan lui dit alors, El-Hassan lui dit alors, par Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'interrogera, yani yawm al-qiyama, sur ce que tu as visé par cela. Nam, tu viens de pleurer maintenant? Nam, par Allah, nam, qu'Allah ta'ala va te poser la question yawm al-qiyama, nam, qu'est-ce que tu as visé en pleurant? Tu as visé qui? Pour que nous, ici, dans l'assise, on dise, Masha'Allah, il a été touché, celui-là. C'est quelqu'un qui a un cœur, qui a un cœur plein de douceur, Masha'Allah, la douceur de la foi. Il a vite pleuré, ou bien tu as pleuré pour Allah, Allahu alam. Mais Allah Ta'ala va demander pourquoi tu as pleuré, alors qu'il sait. Il sait, bien sûr, il connaît la réponse. On va ajouter quelque chose. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah. Al-Fudayl ibn Ayyad rahimahullah a dit, si on te dit faux dévot, si on te dit faux dévot, hein, tu n'es pas un sincère, tu n'es pas un pieux, tu te mets en colère et cela t'est pénible. Et cela t'est pénible. Alors que c'est possible que ça soit vrai. C'est possible que ça soit vrai, pourquoi pas? Il a dit, tu t'es paré pour ce bas monde. Tu feins, tu raccourcis ton vêtement et tu embellis ton apparence afin que les gens disent que tu es un adorateur, qu'ils t'honorent, te regardent, viennent à toi et te fassent des cadeaux. Et te fassent des cadeaux. C'est pour ça que Ali ibn Bakr, rahimahullah, a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je préfère rencontrer Satan. Satan, écoutez bien cette phrase. Je préfère rencontrer Satan. Je préfère rencontrer le shaitan que de rencontrer Hudayfa al-Marqashi. Hudayfa al-Marqashi, à l'époque, un grand savant très connu, il a dit, je préfère rencontrer shaitan que de rencontrer ce grand savant. Vous savez pourquoi? Il a dit, car je crains de feindre pour lui et ainsi de chuter aux yeux d'Allah. Si je rencontre shaitan, je n'ai peur de rien. Je lui dis, a'oudou billah minka. Espèce de shaitan, espèce ceci, espèce cela. Mais si je rencontre tel savant qui vivait avec eux à l'époque, un grand prédécesseur, il a dit, j'ai peur de le rencontrer. Pourquoi? Car je crains, j'ai peur de feindre pour lui. Que quand je le vois, je commence à feindre, à montrer que je suis mashallah, à montrer que je connais bien l'arabe, je connais le hadith, poser des questions, ceci, cela. Non, je commence à feindre, pas pour Allah, mais pour lui. Et dans ce cas, j'ai peur de chuter dans les yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Abu Hazim rahimahullah a dit, dissimule tes bonnes actions plus encore que tu ne dissimules tes péchés. Les péchés, faut pas les faire devant tout le monde, ça. Yani, je dois ne pas en faire du tout, mais si j'en fais, au moins en cachette, pour que les gens soient pas témoins de moi demain. Si Allah Ta'ala veut me pardonner, ils ne vont pas parler, ils vont pas dire à Allah comment vous lui avez pardonné alors qu'on l'a vu faire ceci, cela. Mais ici il dit, il faut dissimuler tes bonnes actions plus que tu ne dissimules tes péchés. Et Ibrahim al-Adham rahimullah a dit, n'est pas sincère envers Allah celui qui aime la célébrité. N'est pas sincère envers Allah celui qui aime la célébrité. Non, mais il y a des gens qui quoi? Qui, yani, rentrent en islam ou bien commencent à appliquer avec l'intention qu'ils veulent devenir célèbres. C'est ça l'intention, la première. C'est pas moi, je rentre en islam parce que j'aime Allah Ta'ala et je veux sauver ma peau. Je veux sauver ma peau de l'enfer, je veux aller au paradis. Non, celui-là, il rentre en islam ou bien il commence à appliquer, il est musulman, mais il n'était pas dans la religion. Il commence à appliquer, mais toujours dans l'espoir de devenir un jour célèbre, de devenir un écrivain, un savant en islam, quelqu'un qui fait les cours, quelqu'un qu'on voit sur YouTube, sur je ne sais pas quoi. Non, il a dit, celui-là n'est pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que Abu Ayyub Sirtiyani a dit, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est sincère envers Allah n'est sincère envers Allah que s'il se réjouit qu'on ne sache pas où il réside. Que s'il se réjouit, hein, qu'on ne sache pas où il réside. Bien sûr, ça ne s'applique pas à nous tous, les gens de la masse. Nous, que les gens sachent, savent où on réside ou bien où on ne réside pas, ça peut, yani, ça ne sert à rien. Mais par exemple, pour les célébrités, les personnes qui sont connues, etc., hein, c'est cela que, par exemple, comme les savants, etc., si tu es savant ou là, tu n'es sincère que lorsque tu te réjouis pas qu'on sache là où tu résides. Car qu'on sait là où tu résides, ils vont venir chez toi, ils vont te faire des éloges, ils vont ceci, ils vont cela. Donc, si tu es vraiment sincère, tu voudrais même pas qu'ils sachent où tu habites, où tu habites. C'est pour ça que Mohammed ibn al-Hassan, rahimahullah, rapporte. Il a dit, lorsque Abu Abdallah, c'est-à-dire l'imam Ahmed, rahimahullah, marchait dans la rue, il réprouvait que quelqu'un le suive. Il réprouvait que quelqu'un le suive. C'est pour ça que Bishr ibn al-Harith, rahimahullah, a dit, le trésor du croyant consiste à ce que les gens ne prêtent pas attention à lui et qu'ils ignorent où il réside. C'est ça le vrai trésor. C'est pas que les gens doivent te connaître. Au contraire, c'est que, alhamdoulilah, ils ne prêtent aucune attention à toi. Tu passes, yani incognito. Là où tu passes, tu es incognito, masha'Allah. C'est pas que tu cherches le contraire. Tu cherches à ce que les gens te connaissent. Pourquoi tu cherches ça? Tu cherches qu'ils te connaissent pour qu'ils fassent des éloges. Ça te suffit qu'Allah Ta'ala te connaît. Toi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et le Créateur des cieux et de la terre te connaît avec ton nom, ton prénom, le nom de toute ta famille et ce qu'il y a dans ton cœur. Ça te suffit. C'est pas la peine que les gens me connaissent. Alhamdoulilah, que lui me connaît. Alhamdoulilah. C'est ça la grande ni'ma. Naam. C'est pour ça que ça me rappelle un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que Inna Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala aime. Aime, Inna Allah ta'ala yuhib, l'abd, le serviteur, il a dit taqi, al-naqi, al-khafi. Allah ta'ala aime, authentifié par l'Albani, Allah ta'ala aime le serviteur, al-taqi, pieux, al-naqi, propre, propre, loin des péchés, loin, non, propre, al-khafi, discret. Pas que tout le monde connaît, discret. Il peut passer là, personne ne sait qui c'est cette personne. Non. Ahmed ibn Hanbal lui-même a dit, rahimahullah, il a dit, j'aimerais vivre dans les montagnes de la Mecque, dans les montagnes et les cavernes de la Mecque. Pourquoi? Afin de ne pas être connu, car j'ai été éprouvé par la célébrité. Non. Il a dit, si c'est possible, je voudrais vivre dans des grottes de la Mecque. Pourquoi? Afin de ne pas être connu. Là où je passe, Imam Ahmed, voilà Imam Ahmed, le grand savant, le ceci, cela. Si Allah Ta'ala pouvait m'aider, je vivrais dans une grotte. Pourquoi? Il a dit, j'ai été éprouvé par la célébrité. Comme disait Cheikh Al-Albani, rahmahoullah, sa phrase célèbre, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Hubbul Yuqsimu dhuhur. Hubbu dhuhur. Le fait d'aimer, yani, la célébrité, la réputation, ça brise les dos. Bon, en français ça rime pas, mais en arabe ça rime. Hubbu dhuhur, les dos. Yuqsimu dhuhur, brise les dos. Naam. Que j'ai dit, hubbu dhuhur. Naam, l'amour des célébrités, la réputation. Brise les dos. Dhuhur et dhuhur en arabe. Dhuhur. Yani, se faire voir et dhuhur les dos. Ça me rappelle une fois que le Cheikh Al-Albani rahmahoullah, on lui avait préparé comme ça une grande assise. J'ai oublié dans quel pays. Un pays vraiment loin. Je ne sais où. En Amérique ou là, je ne sais où. Non. Et ce par-là, il n'était pas au rendez-vous. Ensuite, on lui a téléphoné. On lui a dit, Cheikh Al-Albani, il a dit vraiment, je regrette, yani, je ne peux pas venir là. Ensuite, l'autre, il lui a dit, Subhanallah, l'adhim, cher, il y a, je crois, il lui a dit, il y a, je crois, 1 million, ou là, je ne sais pas combien, là, c'était 1,5 million, ou là, de gens présents. qui vous attendent. Cheikh Al-Ben lui a dit, Alhamdoulillah que tu as dit ça, Alhamdoulillah que tu as dit ça. Donc maintenant, si peut-être j'allais venir, enlève-moi de ma liste. Enlève-moi de la liste. Jamais. Si vous avez remarqué, hein, peut-être vous avez remarqué. Vous avez remarqué que Cheikh Al-Ben rahmahoullah n'a jamais donné un cours dans une mosquée. Tous les livres qu'il a, toutes les cassettes, toute la science, une montagne de science, il n'a jamais donné un seul cours dans une mosquée. Ces cours, c'est quoi? Toujours dans les maisons. Combien qui sont dans la maison? 8, 10 personnes. 8, 6, 10 personnes. Mais c'est enregistré et l'enregistrement, ensuite Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'il se diffuse dans tout le monde entier. Il se diffuse dans tout le monde entier. Des gens qui ne cherchent pas à être connus. Ils veulent seulement ravir Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah ta'ala est ravi de moi, ça me suffit. Ça me suffit. J'ai pas besoin des autres. J'ai pas besoin des autres. Non. C'est pour ça que Saïd ibn al-Haddad, rahimullah, a dit, rien n'obstrue plus le cheminement vers Allah que la recherche des éloges et de l'élévation. Non. Un jour, un homme m'a invité Cheikh à une conférence dans un pays et l'homme lui a dit qu'il y a plus de 4 millions de personnes. Le Cheikh a dit de demandé au Cheikh pourquoi il avait. Il répondit, vous pensez vraiment devant 4 millions de personnes, j'arriverai à me préserver de l'ostentation. Donc vous voyez, il y avait 4 millions. Il y avait 4 millions de présents. Naam, rahimahullah, rahimahullah. Tayyib. Mohamed, écoutez ça, écoutez. Toujours de la sincérité et l'ostentation. Mohamed ibn Yusuf al-Asbahani, rahimahullah, n'achetait pas son pain d'un seul boulanger. Il changeait de boulanger. Et il disait, il se peut qu'ils me connaissent. Pourquoi tu changes de boulanger? Il a dit, il se peut qu'ils me connaissent et me fassent des cadeaux. Et qu'ainsi, je sois de ceux qui vivent de leur religion. Il se peut que les gens me connaissent et savent que je suis un grand savant. Donc, maintenant, quand je vais chez le boulanger, il ne veut pas, Yannick, que je paye. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire maintenant, je vis de par ma religion. Je ne vis pas en payant des choses et en achetant avec mon argent. C'est la religion qui me fait vivre. Comprenez? Celui-là, il me donne du pain. L'autre, le boucher, il va avoir honte de moi, il va me donner la viande. L'autre, il va me donner des carottes et comme ça. Donc, maintenant, je vis de ma religion. Je ne vis plus avec mon argent. C'est pour ça que Abdullah ibn al-Muhayriz, rahimahullah, entra une fois dans une échoppe pour acheter un vêtement. Et un homme, dit au propriétaire de l'échoppe, il lui a dit, tu vois cette personne, il s'agit de ibn al-Muhayriz. Alors sois dans la vente avec lui. Tu as reconnu cette personne, c'est X, le grand savant. Alors sois conciliant avec lui dans la vente. Ibn Muhayriz l'a entendu, bien sûr. Il se mit en colère et dit, nous achetons avec notre argent et pas avec notre religion. Nous achetons avec notre argent, pas avec notre religion. Non. Al-Fadl ibn al-Muhallal rapporte, il a dit que Sofiane Thauri, rahimahullah, l'un des grands tabi'in, rahimahullah, naam. Il a dit, Sofiane Thauri me dit, où réside le statut, afwan, où réside le salut, où réside le salut? Je répondis, dans le fait de ne pas être connu. Il m'a répondu, ce n'est pas, c'est impossible, cela n'est pas possible. C'est impossible qu'on ne soit pas connu. Il y a toujours des gens qui te connaissent. Mais le salut réside dans le fait que tu aimerais ne pas être connu. Voilà la différence. Ne pas être connu, c'est pas possible. Mais si tu aimes que tu ne sois pas connu, voilà le salut. Voilà le salut. Naam. Tayyib. C'est pour ça l'imam Shafi'i, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit, l'imam Shafi'i, rahimahullah? Shafi'i est très connu. Quelqu'un l'a entendu dire, quelqu'un qui s'appelle Rabi, rahimahullah, l'a entendu dire. C'est-à-dire, a entendu Shafi'i dire, j'aurais aimé que les gens connaissent cette science Il parle de ses livres, hein, les livres qu'il a écrits. J'aurais aimé que les gens connaissent cette science sans que rien ne me soit attribué. J'aurais aimé que les gens aient pris cette science qu'il y a dans mes livres que j'ai écrits sans qu'ils disent c'est Shafi'i qui a dit ça. Non. J'aurais aimé être incognito. Je donne seulement la science, mais sans qu'ils me citent. C'est pour ça que Abu Ishaq al-Fazari rahimahullah a dit, il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse des éloges alors qu'ils ne pèsent pas plus qu'une aile de moustique auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens qui aiment qu'on leur fasse des éloges alors que devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne pèsent pas plus qu'une aile de moustique. Tu trouves la personne vraiment noyée dans les péchés, vraiment loin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quoi? Et elle voudrait qu'on lui fasse quoi? Qu'on lui fasse des éloges. Ibn Muhayriz, rahimahullah, rapporte. J'ai entendu Fadala ibn Ubayd dire, alors que je lui avais demandé une recommandation, il lui a dit, donne-moi un conseil. Il lui a dit, voici des caractéristiques dont Allah te fera profiter. Je vais te donner des conseils. Si tu les appliques, Allah subhanahu wa ta'ala, il te les fera profiter. Si tu peux connaître sans être connu, fais-le. Si tu peux connaître sans être connu, fais-le. Si tu peux écouter sans parler, fais-le. Si tu peux t'asseoir dans une assise, seulement écouter, sans parler, fais-le. Et si tu peux t'asseoir avec d'autres, sans qu'on s'assoie avec toi, fais-le. Si tu peux, c'est toi qui vas t'asseoir avec les gens. C'est pas eux qui viennent s'asseoir avec toi. Alors fais-le. Ça veut dire que tu ne deviens pas connu au point où ce sont eux qui viennent s'asseoir avec toi. Mais c'est toi qui vas s'asseoir avec les gens. Alors dans ce cas, fais-le. Non. Bon, reste quelque chose et on va terminer, inshallah. Sofiane ibn Uyayna, rahimallah, a dit, celui qui se pare devant les gens d'une chose dont Allah Ta'ala sait qu'il est à l'opposé, celui-là, Allah l'enlève. Celui qui se pare devant les gens d'une chose dont Allah sait qu'il est à l'opposé, celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'enlève. Ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui se trouve dans le Bukhari, dans le Muslim. Que le prophète alayhi wa sallam a dit, il a dit, celui qui se pare, naam, d'une chose qu'il n'a pas. Naam. Il a dit, celui-là, c'est comme s'il portait deux vêtements, yani, il a dit, c'est un peu difficile à expliquer en français, mais disons deux vêtements qui ne lui appartiennent pas. Qui ne lui appartiennent pas. À quoi ça sert de mettre que tu mettes deux vêtements, mais qui ne sont pas à toi? Tu les as empruntés. Donc, quand on va faire des éloges, on va dire, Mashallah, ils te vont bien, ceci, cela, ils sont beaux, ils sont ceci. Ce ne sont pas tes vêtements. Ça va te faire plaisir, ça. Tu dis, yani, ils me font des éloges. On ne t'a pas fait des éloges à toi. On a fait des éloges, c'est yani, à la personne qui t'a prêté ces vêtements. Et ce hadith, pourquoi le prophète, pourquoi il a dit cette phrase? Il a dit cette phrase-là parce qu'une femme lui a dit, une co-épouse, c'est-à-dire une deuxième. Qui, dont le mari est marié à une autre. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que, yani, c'est pas interdit, est-ce que c'est permis, que je montre à ma co-épouse, que je montre à ma co-épouse que mon mari, yani, me donne des choses, m'achète des choses, alors que c'est pas vrai. Juste pour jalouser l'un et l'autre. Elle lui a dit, Ya Rasulallah, est-ce que, yani, c'est pas interdit que Yani, je montre à ma co-épouse comme quoi Yani, il m'achète des vêtements, alors que c'est pas vrai. Il lui a dit ça, il lui a dit, celui qui se pare d'une chose qui n'est pas la sienne, nam, il a dit, c'est comme s'il avait mis deux vêtements, nam, nam, deux vêtements, zor, zor, ça veut dire pour aller faire un faux témoignage. Car certains savants ont dit que certains pour aller faire un faux témoignage, ils s'habillent bien, etc., pour que le juge, pour tromper le juge. Et pour que les gens disent cela, ils sont bien habillés, ce sont des riches, Donc, ils ce sont pas des menteurs. Donc, on va accepter leur témoignage. Comme tout. Écoutez ce que dit Moutrif ibn Abdullah rahimahullah. Ce qu'il a dit, il a dit dormir toute la nuit, écoutez bien, dormir toute la nuit et me lever le matin plein de regrets de ne pas m'être levé, etc., est préférable à moi au fait de prier toute la nuit et me lever le matin infatué de ma personne. Et de me lever le matin en me faisant des éloges à moi-même. Masha'Allah, j'ai prié toute la nuit. Masha'Allah, je suis un pieux. Je suis un savant des pieux prédécesseurs. Masha'Allah, je suis un rapproché d'Allah Ta'ala. Il a dit, je préfère dormir toute la nuit, ronfler toute la nuit, et le matin, me faire quoi? Yani, me lever plein de regrets. Il dit, le shaitan a dû uriner dans mon oreille. Naam, mon cœur est dur, ceci, cela. Naam, me blâmer. Je préfère dormir toute la nuit et me blâmer le matin que de prier toute la nuit et me lever le matin avec de l'orgueil, me sentir enflé, enflé d'orgueil et de dire, hey, c'est moi. Si les gens savaient qui j'étais, je passe la nuit à prier. Naam. C'est pour ça que Nafi ibn Jubayr rahimahullah a dit, celui qui participe à un convoi funéraire, afin, c'est quoi son but? Afin d'être vu par la famille du défunt, celui-là n'y participe pas en réalité. Non. Car il y a des gens qui participent à un convoi funéraire juste pour être vus par leur famille. Pour que la famille du défunt disent, on a vu X dans le convoi, c'est tout. Mais il n'est pas parti, il n'a pas suivi le convoi pour Allah. C'est pas pour avoir des récompenses, non. Pour que les gens parlent de lui et fassent des éloges. Ils disent, Nam, il est venu. C'est pour ça que même nous, on voit ça, on voit, on vit ça, on le vit. On voit quand il y a un convoi funéraire, on voit des gens qui vraiment, vraiment, vraiment sont loin, 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 et qui sont venus, peut-être spécialement pour la famille, c'est tout. Il n'est pas venu pour Allah. La preuve, dans le convoi, quand on est en train de marcher dans le convoi, il parle de commerce. Est-ce que tu sais combien ça se vend telle chose? Tu sais combien c'est le prix est monté, le prix est descendu, et comme ça. Dans le convoi. On est en train de marcher dans le convoi, là où il faut pas parler, là où il faut pleurer, là où il faut avoir le khushu', là où il faut se mettre à la place du mort. Eux, ils sont en train de parler de je ne sais pas quoi. Et la preuve, quand on va faire la salade, ils font pas salade sur le mort. Allah aidé. Ubaydallah ibn Ja'far a dit, si quelqu'un prend la parole dans une assise et qu'il lui plaît de parler, ça lui plaît de parler dans l'assise, alors qu'il cesse de parler. Et s'il reste silencieux et que ça lui plaît de rester silencieux, alors qu'il parle. Naam. Des fois dans une assise, des fois, la personne commence à parler, ça lui plaît, ensuite elle va sentir des choses dans son cœur que ça, sûrement que ça leur plaît ce que je dis, donc ils disent de moi que je suis talibou ilm, je suis ceci. Il vaut mieux te taire. Non, il vaut mieux donner la parole aux autres et tais-toi, c'est mieux. Pour y aller sauver ta peau. Et le contraire aussi est valable. Si tu te tais, eux ils parlent et toi tu te tais. Et à un certain moment, tu sens dans ton cœur, tu sens que tu te tais aussi, yani par ostentation. Des fois, on se tait par ostentation. On veut se taire, nam, pour yani, que ça donne aussi un effet. Que ça donne aussi un effet, nam, pour que les gens nous disent, parle, 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 nam. Dans ce cas, il vaut mieux parler pour enlever de ton cœur cette chose. Pour enlever de ton cœur cette chose, nam. Hamad ibn Zayd rapporte, rahimahullah, il a dit, Ayyub Sirtiyani, rahimahullah, était dans une assise lorsque les larmes envahirent ses yeux. Il se mit alors à se moucher et dire, quel rhume aujourd'hui. Alors que quoi? Alors qu'en fait, ce n'était pas un rhume, mais c'était ses yeux qui ont larmoyé. Mais quand il dit quel rhume, pour ne pas rentrer dans le mensonge, il faut pas qu'il dise j'ai le rhume. S'il dit j'ai le rhume, il a menti. Un peu prédécesseur, on ne peut pas mentir comme ça. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a montré dans son hadith authentique que quand quelqu'un, un homme par exemple, prie, un homme prie, et que, il y a par exemple dans la mosquée, il y a des rangs. Et lui, par exemple, il est dans le deuxième ou premier rang. Et que il a fait sortir un gaz, par exemple. Un gaz. Comment qu'il va faire maintenant? Pour y aller, traverser tous les rangs et aller jusqu'à l'endroit où on fait les ablutions. Il ne sait pas où ça se trouve. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on lève sa tête et on met sa main sur son nez. On met ses deux doigts sur son nez. C'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toi, quand tu lèves ta tête et tu mets tes deux mains ou tes deux doigts sur ton nez ou sur les trous de tes narines, quand je te vois, moi je suis en train de prier, je te vois te faire comme ça, je me dis, il a eu quoi? Il a eu une saignée. Il a quoi? Son nez qui saigne. Et un nez, je me pousse un peu pour te laisser passer. Donc, apparemment, tu fais croire aux gens que tu saignes, alors que c'est pas vrai, tu n'as pas saigné. Mais ce n'est pas un mensonge. Je n'ai pas dit aux gens, attention, laissez-moi passer, j'ai le sang. J'ai fait comme fait quelqu'un qui a le sang, c'est tout. Vous avez compris? Ça, c'est la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il reste 4 ou 3 ou 4 choses à dire. Abdullah ibn al-Mubarak a dit, une œuvre minime peut être multipliée par l'intention. Et une œuvre importante peut être diminuée par l'intention. Ça, une œuvre minime, toute minime qu'elle peut être. Donner une date en aumône. Elle peut être multipliée, grandir et être comme des montagnes chez Allah subhanahu wa ta'ala, de par quoi? Ta sincérité et ta bonne intention. Et une œuvre importante, quelqu'un qui va donner à un autre, il va lui donner 10 000 euros, 100 000 euros. Il dit, tiens, je te donne ça en aumône. Elle peut être diminuée et elle est vraiment, vraiment diminuée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? À cause de l'intention. Il a donné pour que les gens disent de lui. Pour que quand les gens savent qui il a donné, ils vont parler de lui en bien. Et dire, Masha'Allah, telle personne. Comme elle est généreuse, cette personne. Masha'Allah. Non. Voilà, on arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici. Et le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, comme aujourd'hui, ce sera la correction. La correction de l'intention. La correction de l'intention. Bi'idhnillahi Ta'ala. Donc, Inch'Allah Ta'ala, le musulman commence à prendre les questions. Commence, Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم وفيكم بارك الله.
Non, cher. Donc les trois premières questions. Salam alaikum. Pouvez-vous me dire, est-ce qu'il existe une sorte d'ostentation alors qu'on est seul chez nous? C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de commettre ria ou as-sum'a alors qu'il n'y a personne qui peut nous voir ou nous entendre? Si oui, comment sont préservés qu'Allah vous récompense? Question suivante. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez ainsi que les admins. Dans le cours de ce soir, je me suis reconnu dans certains moments de ma vie. A'oudhou billah. Je voudrais savoir comment faire pour toujours être sincère et se protéger de l'ostentation, car j'ai peur de faire des actes. Maintenant, Shaitan me fait du waswas. Il me dit que certaines choses que je fais, c'est pour être vu. Et dois-je faire le repentir pour avoir déjà été dans l'état que vous avez cité ce soir dans le cours Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. En ce moment, je me pose beaucoup de questions sur la sincérité. J'ai peur d'être une hypocrite. Je n'arrive pas à faire la prière avec un vrai khushu, concentration. Mes enfants, dès qu'ils me voient faire le takbir, font beaucoup de bêtises. J'ai tout essayé pour pouvoir m'isoler pendant la prière, mais ils viennent quand même. Aujourd'hui, subhanallah, j'ai dit à mon époux que je me sentais hypocrite. Et Ajay, vous avez fait un cours dessus. Je n'ai pas fait salat Doha, car je me sentais hypocrite. Comment savoir si je suis vraiment sincère, car je n'arrive pas à faire autant de ibadah depuis que j'ai des enfants, barakallahu fikoum. C'était la question d'une sœur. Enfin, d'un cher.
Wa alaykoum salam wa barakatuh. Donc, je jette un coup d'œil sur les questions, une seconde. Une seconde. Tayeb. Non. Avant cela, avant de cela, Tayeb. Alhamdoulilah. Donc, il y a des gens qui demandent pour le livre, pour le livre. Non. Je dis le livre, Inch'Allah ta'ala, il y a son nom dans la bannière. Son nom dans la bannière. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et ceux qui m'ont demandé le titre en arabe, j'ai pas le livre en arabe. Je l'ai en français. Comme ça qu'il s'appelle. Ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Ensuite, je conseille, même à quelqu'un qui a le livre, je conseille, c'est tout. Quand je fais le cours, même si tu as le livre, il vaut mieux ne pas l'ouvrir. Sauf si je corrige quelque chose. Je dis, il faut corriger cette chose. Car je vais corriger des choses. Car quand tu lis avec moi, tu vas me précéder. Tu vas me précéder. Ensuite, tu vas t'occuper à lire au lieu d'écouter. Ensuite, il n'y aura pas beaucoup d'impact sur le cœur. Tu comprends? Tu vas comprendre toi-même avant que je te fasse comprendre. Et, classe, maintenant l'idée est imprégnée dans ton cœur. C'est difficile après que tu comprennes ce que je veux dire moi. Autre chose que je voulais dire aussi. Bon, comment ça là pour les questions? Voilà, je voulais dire aussi. Je voulais dire aussi que maintenant j'ai peur. Je me suis dit ça, mais je dis peut-être ça va pas donner ça, mais maintenant je commence à douter. J'ai peur que, en lisant avec vous ce livre, qu'il vous donne beaucoup de ouest-ouest. Et que vous disiez tous, on est tous des hypocrites, on est tous ceci, donc. Et j'ai peur que ça donne l'effet inverse. De dire donc, moi, je suis très loin, donc j'arrête, j'abandonne. Vous avez compris? Car si je vais sentir cela, je vais changer de livre. Si je vais sentir que, au lieu que ça donne l'effet positif pour aller se corriger, ça donne l'effet négatif de dire, donc moi je suis très loin de ces gens-là, donc moi je suis un hypocrite, hypocrite, je suis en train de bluffer, c'est tout. Et il arrête. Vous avez compris? Donc on va voir, yani, vous-même, ce que vous allez penser de ce livre. Non. Donc, un frère dit. Pouvez-vous me dire, est-ce qu'il existe une sorte d'ostentation alors qu'on est seul chez nous? Alors qu'on est seul chez nous. C'est-à-dire, est-ce qu'il est possible de commettre riya ou bien suma alors qu'il n'y a personne qui peut nous voir ou nous entendre? Je dis, Inch'Allah, que non. C'est pas possible. C'est quoi l'ostentation? C'est de vouloir faire de sorte que les gens voient. Ils nous font des éloges. Voient, nous voient. Et parlent de nous, ils font des éloges. Maintenant, quand tu es seul, Allah Ta'ala t'a donné cette ni'ma qu'il n'y a pas d'ostentation. Il y a le shaitan, bien sûr, qui va venir, qui va quoi? T'enlever le khushu', ou bien va te faire ce qu'on appelle l'autosatisfaction. I'jab. Tu vas dire, yani, je suis devenu, masha'Allah, je suis ceci, je suis ceci. Non, mais l'ostentation, bidnet, il n'y a pas, qui est plus grave. Qui est plus grave, l'ostentation, ça rentre dans le shirk. Tu veux faire des choses pour les gens. Alors que l'i'jab, tu sens seulement que tu es enflé ou là. Ça, c'est facile. Un peu d'istighfar et un peu de doigt, tu l'enlèves, bidnet, ta'ala. Non, donc, alhamdoulilah, pour la solitude. C'est pour ça que tous les salafs cherchaient la solitude. Tous les salafs cherchaient qu'ils voulaient faire les choses quand ils étaient seuls, seuls enfermés dans la chambre. Deuxième question. Dans le cours de ce soir, je me suis reconnu dans certains moments de ma vie. Audoubillah, je voudrais savoir comment faire pour toujours être sincère et se protéger de l'ostentation, car j'ai peur de faire des. Non, c'est ce que j'allais dire aussi. Ce que j'allais dire. Ça a un rapport avec la première question. Pour être toujours sincère, Inch'Allah ta'ala, et te protéger de l'ostentation, essaye de faire comme a dit le grand savant tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, si je pouvais faire la salat surérogatoire sans que mes deux anges me voient, je le ferais. S'il y avait une solution, comment faire pour que, quand je fais la nafila, personne ne me voit, alors je le fais. Donc, toi, c'est quoi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois y aller, miser au maximum sur la solitude quand tu fais la nafila. Quand tu pries la nafila, C'est pour ça que la sunna de la nafila, c'est pas de la faire à la mosquée, c'est de la faire à la maison. Donc, quand tu fais quelque chose à la maison, si tu peux au maximum la faire sans que personne te voie, fais-le. Mais si ce sont des choses que vous êtes nombreux dans la famille et que c'est des choses que tes enfants sont habitués à te voir, ta femme, c'est comme celui qui fait les 12 rak'at par jour. 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, 2 après le Maghreb, 2 après Isha. Ça, tu es obligé qu'on te voie à la maison. Tu as une femme, tu as des enfants. C'est pas de ça on parle. Mais des choses que tu ajoutes en plus. Des choses que tu peux faire sans qu'ils te voient. Quand ils sont en train de dormir, quand tu peux jeûner sans qu'ils sachent. Et comme ça. Il a dit pour. Dois-je me repentir pour avoir été déjà, pour avoir été dans l'état que vous avez cité ce soir dans le cours Barakallahu fikoum? Naam, quand une personne sent que elle a fait de l'ostentation, etc., et que maintenant elle sent qu'elle était dans la faute, etc., elle se repent en demandant à Allah Ta'ala pardon, en demandant à Allah subhanahu pardon, et en se mettant dans la tête qu'Inch'Allah Ta'ala, dans le cœur, qu'elle ne refera plus cette chose, bi'idhnillahi Ta'ala. Tayyib. Pour la troisième question. Je me pose beaucoup de questions sur la sincérité, j'ai peur d'être hypocrite, je n'arrive pas à faire la prière avec un vrai khouchoua, etc., etc. Aujourd'hui, j'ai dit à mon épouse, par là, je me sentais hypocrite et adib. Vous avez fait un cours dessus, je n'ai pas fait salat al-duha car je me sentais hypocrite, etc. Je dis, le fait de se sentir hypocrite de temps en temps, c'est quelque chose de qui arrive à tout le monde. Un sahabi, il a senti ça. Que pensez-vous d'un sahabi? Sahabi, il est allé au prophète, lui dire, Hamdallah est devenu hypocrite. Ya Rasulallah, Hamdallah est devenu hypocrite. Et le prophète lui a dit que non, tu n'étais pas hypocrite, mais que il y a des hauts et des bas. Quand vous êtes chez moi, mashallah, vous entendez ça. Quand vous partez de chez moi, il y a des bas, on voit des choses, on entend des choses qui nous font oublier et nous prennent notre khushu'. Donc je dis à cette sœur qu'elle n'est pas hypocrite, bidna. Parce que personne ne l'oblige à ce qu'elle prie et elle prie. Personne ne l'oblige à ce qu'elle se voile et elle est voilée. Personne ne l'oblige à ne pas voir les films de haram et elle ne les voit pas. Donc, où est l'hypocrisie ici? Mais il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. C'est pour ça que je lui ai dit, quand elle a dit j'allais faire salat Doha, et je me suis dit, donc je suis hypocrite, je ne fais pas salat Doha. Ça, c'est faux. Quand je veux faire une chose pour Allah Ta'ala, je ne dois pas la délaisser à cause du shaitan. Shaitan qui vient me dire tu es hypocrite, donc fais pas salat Doha. Non, je fais salat Doha et je vins. Non, je vins du verbe vaincre. Je vins le shaitan. Je l'ai vaincu maintenant en faisant salat Doha. Car toi, quand tu l'as pas faite, qu'est-ce que tu as gagné? Tu as dit je la fais pas à cause du shaitan. Donc tu n'as rien gagné. Tu penses que tu es toujours hypocrite et tu as perdu salat Doha. Donc, on doit pas laisser Shaitan jouer de nous, bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, une chose importante, attendez, énorme. Ensuite, une chose importante, surtout pour les sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, qu'on le veuille ou pas, la femme est toujours, yani, comme a dit le prophète, il a dit, naqisatu aql wa din. Il a dit que elle est manquante dans le din. Pourquoi? Car comme vous savez déjà, elle prie pas une semaine par mois. Une semaine par mois, elle prie pas. À cause de son cycle. Donc pendant cette semaine, elle va faiblir. Et c'est pour ça que l'homme a reconnu la faiblesse de la femme dans ces choses-là. Et a dit, par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il suffit qu'elle fasse quatre choses pour qu'elle aille au paradis. Non. Si il a salat comme ça, si elle fait ses cinq prières et que yani, elle se préserve et que Yani, elle fait son jeûne et qu'elle obéit à son mari, il a dit qu'elle ira au paradis. Car la femme, dit qu'elle, même si elle s'était, mashallah, talibat ou ilm, mais peut-être même savant, dès qu'elle se marie, elle a des enfants, elle ne le fait pas exprès. Non, elle ne le fait pas exprès. Quand elle tombe enceinte, c'est les vomissements, c'est les maux de tête, c'est les contractions. Aller chez le médecin, revenir, faire ceci, cela, ensuite, c'est là qu'on, ensuite, l'enfant, le premier, le deuxième, le troisième, tout le temps, il a uriné, il a fait ceci, il a mal aux dents, ici, là, cela. Donc, là, c'est normal que la personne, yani, faiblisse. C'est pour cela que, yani, elle ne doit pas se laisser aller. À chaque fois qu'il y a des moyens, elle se ressaisit. Elle se force à écouter des cours. Elle se force à assister à des assises. Et comme ça. Car si elle se calme, comme je vous ai pas coulé. Parce que les enfants, le ménage, etc., ça lui prend beaucoup de temps. Ça lui prend beaucoup de temps. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à quelqu'un. Quand il se marie avec une soeur qui est mashallah. Ensuite, elle commence à abandonner la science, etc. Il ne faut pas lui en vouloir. Il faut juste qu'il lui fasse les rappels. Sinon, yani, elle est excusée à cause du temps qu'elle prend à cause de son mari, ses enfants et sa maison. Inch'Allah pour les trois autres questions.
Cher, donc les trois questions suivantes. Assalamu alaikum wa rahmatullah shaykhana. Donc c'est la question d'une sœur. Wafakakum Allah. Vous nous avez dit durant le cours qu'il est préférable de se lever le matin. Désolé de ne pas s'être réveillé la nuit. Que veiller toute la nuit en étant satisfait de soi. Est-ce que si l'on fait un travail sur soi, c'est mal de se dire Alhamdulillah, je suis arrivé maintenant à tel ou tel niveau? Barakallahu fikoum. Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum wa rahmatullah. Qu'Allah vous préserve et vous accorde le fait des awushir. Comment sait-on qu'on est aimé par Allah? Barakallahu fikoum. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh, cher. J'aimerais savoir, est-ce que l'amour qui est mentionné dans le hadith que les anges ont sous l'ordre d'Allah Ta'ala est un sentiment que nous connaissons ou bien c'est un amour qui leur est propre et ressemble pas à celui des hommes. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khayran. Tafadhal cheikh.
L'amour des anges, là où Allah subhanahu wa ta'ala va dire aux anges, j'ai aimé telle personne, aimez-la, ce n'est pas un amour comme yani un sentiment qu'on a nous. Pourquoi? Car nous, on a un cœur et on a yani, des sentiments, etc. Alors que les anges sont créés de lumière. Ce sont des lumières. Vous avez compris? Donc, yani, leur amour n'est pas comme notre amour, bi'idhnillahi ta'ala. Exactement comme l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala nous aime aussi. Il nous aime et il dit à l'ange, aux anges, aimez-le comme je l'ai aimé. Mais sans notre amour, comme notre amour. Naam. C'est pour ça que dans le même sujet, une question qui lui ressemble, où on a dit ici, salam alaikum. Comment sait-on qu'on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala? Comment sait-on qu'on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Je dis, je vais laisser le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même vous dire comment qu'on sait qu'on est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans un hadith authentique, que Allah ta'ala a dit, rapporté par Bukhari Muslim, que Allah ta'ala a dit, qu'a dit Allah ta'ala? Il a dit, il n'y a pas une chose que j'aime comme les recommandations obligatoires. Salat, zakat, hajj, etc. Et mon serviteur ne s'arrête pas de se rapprocher de moi en faisant le surrogatoire, nafila. Mon serviteur ne s'arrête pas de se rapprocher de moi en faisant la nafila, nafila, pas seulement dans la salat, dans l'aumône, dans siyam, dans tout. Il a dit, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, voilà donc la réponse à la question. Et si je l'aime, je serai sa main avec laquelle il prend les choses. Ses yeux avec lesquels il voit. Non. Sa vue avec laquelle il voit. Son oui avec laquelle il entend. Sa main avec laquelle il prend. Et son pied avec lequel il marche. Dans un autre hadith, il a dit, c'est de par moi, de par mon biais, qu'il verra, si je l'aime. De par mon biais, qu'il entendra. De par mon biais, qu'il marchera. De par mon biais, qu'il prendra. Et s'il me demande une chose, je la lui donne. Et s'il me se réfugie auprès de moi, je le réfugie. Donc, si tu vois que tu es loin des grands péchés et que tes mains ne font que ce qu'Allah aime, tes pieds ne vont qu'aux endroits où Allah Ta'ala aime, tes yeux ne voient que le halal, tes oreilles n'entendent que le halal. Naam, sache que Allah subhanahu wa ta'ala khalas t'a aimé. Tu es rentré dans le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala, Hizbullah. Tu es maintenant dans Hizbullah subhanahu wa ta'ala. Naam, c'est pour cela que si tu vas lui demander des choses, il va te les donner. Si tu vas te réfugier auprès de lui, il va te accepter cela. Naam, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider. Tayyib. Une seconde. Kemmelti. Tayyib, prépare-moi les trois questions tant que quand je dois répondre à une question sur les invocations. Prépare-moi les autres questions le temps que je me prépare. Tfadlal. J'ai oublié une question. J'ai oublié une question, si tu m'entends. Alhamdoulilah, j'avais oublié la première question. Qui dit? Non, qui dit une seconde si je la trouve ici. Non, vous nous avez dit durant le cours qu'il est préférable de se lever le matin désolé de ne pas s'être réveillé la nuit plutôt que veiller toute la nuit en étant satisfait de soi. Est-ce que si on fait un travail sur soi, c'est mal de dire Alhamdoulilah, je suis arrivé à tel ou tel niveau. Barakallahu fikoum. Je dis pas interdit, c'est pas interdit quand la personne fait des efforts et qu'elle a atteint un certain niveau, qu'elle dise Alhamdoulilah. Et qu'elle dise aussi dans son cœur, hein, ou la même de sa bouche, que cette ni'ma vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas de moi, c'est Allah ta'ala qui m'a aidé, je suis arrivé à ce niveau. Mais nous, on parlait de quoi? On parlait de la personne qui se sont enflées d'autosatisfaction. Se sont enflées. Ce n'est pas de la personne qui ressent que Allah Ta'ala lui a donné cette ni'ma, ce bienfait, et l'a ressaisi, et maintenant son niveau s'est élevé. Celle-là, au contraire, elle dit Alhamdulillah, et elle n'arrête pas de remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mais elles sont pas l'orgueil, l'ujb, l'i'jab. C'est ça la différence entre les deux, bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal.
Donc, la question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum. Plusieurs prêcheurs en France et ailleurs utilisent le moyen de vidéo avec une introduction des anachid, ou alors ils se photographient et exposent cela dans leur site, ou encore ils font différents rappels dans des endroits attractifs. Et cela m'a fait penser à ces personnes-là lorsque vous avez parlé de gens qui recherchent la célébrité par le biais du ilm. Est-ce que ces moyens sont permis? Si la personne dit rechercher que la satisfaction d'Allah et non la popularité. Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum. Lorsque je veux faire une adoration, je me demande toujours, est-ce que c'est pour le montrer aux gens ou bien suis-je sincère? Des fois, je cesse de faire cette adoration par peur que ce soit de l'ostentation, et des fois, je me dis que c'est Shaitan qui me fait cela. Quel est le meilleur comportement à avoir? Jazakumullah khairan. Question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Est-il vrai que Cheikh l'Albani, rahimahullah, a changé d'avis concernant le sitar dans l'un de ses livres et qu'il a été d'avis que c'est obligatoire? C'est ce qu'une sœur m'a dit, car moi je suis d'avis que c'est obligatoire, mais s'il a changé d'avis, je voudrais le montrer aux sœurs. Tfadal Cheikh.
Salam alaykoum warahmatullahi wabarakatuh. J'aimerais savoir, est-ce que, monsieur Hadi, plusieurs prêcheurs en France et ailleurs utilisent le moyen de vidéo en introduction des anachides, ou alors ils se photographient et exposent cela dans leur site, ou encore ils font différents rappels dans des endroits attractifs. Et cela m'a fait penser à ces personnes-là lorsque vous parlez de gens qui recherchent la célébrité par le biais du ilm. Est-ce que ces moyens sont permis? Si la personne dit rechercher que la satisfaction d'Allah et non la popularité. Je dis, en fait, c'est un peu difficile de rentrer dans les cœurs des gens, hein, pour savoir exactement pourquoi eux ils font cela. Pourquoi eux ils font cela. Mais s'ils le font pour la célébrité, c'est sûr que leur da'wah ne va pas marcher et qu'ils seront punis. Hein. Mais maintenant, s'ils font ça parce que ils suivent le minhaj, c'est permis. et qu'ils ont lu chez certains savants, des faits disent que c'est pas grave pareil. Et par conviction, ça devient autre chose, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc cela revient à quoi? Cela revient à quoi? À l'intention. Mais je dirais franchement que, pour terminer à cette question, je dirais franchement que la plupart, si ce n'est pas tous, les savants des salaf, vraiment s'éloigner des vidéos et des choses pareilles dans leur cours. Mais ça arrive que des gens prennent des vidéos ou bien des photos de savants, etc., des fois sans leur demander leurs avis. Et que, yani, il les propage à droite et à gauche. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Ça y est, pour la deuxième question. Lorsque je veux faire une adoration, je me demande toujours est-ce que c'est pour les gens ou bien je suis sincère. Des fois, je cesse de faire cette adoration par peur de l'ostentation. Des fois, je me dis, c'est Shaitan qui me fait ça. Quel est le meilleur comportement? Le meilleur comportement, c'est de voir si tu es devant les gens, et ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires, nafila. Naam. Si tu peux ne pas les faire, ne les fais pas. Car c'est seulement nafila, je ne suis pas obligé de le faire. Nafila, plus je suis seul, plus c'est mieux. Donc laisse, inshallah ta'ala, quand je vais à la maison, et je fais inshallah ta'ala. Mais si c'est des choses obligatoires, il faut les faire. C'est comme si je suis dans une assise avec des sœurs, et que c'est le moment de prier. Je vais pas dire, je vais pas prier, j'ai peur de l'ostentation. Mais je prie avec elles en groupe, car c'est le moment de la salat. Vous avez compris? Et si par exemple, après la salat, d'habitude, par exemple, après salat Allah, tu as l'habitude de faire deux rak'at. Tu as l'habitude. Et tu sais que maintenant, dans l'assise, tu vas quoi? Tu vas perdre les deux rak'at. Donc là, je suis obligé de les faire aussi devant les gens, devant les sœurs. Je les fais car je vais rester ici jusqu'à Salat al-Asr. Mais si c'est que dans une demi-heure, je vais à la maison, je vais les laisser pour la maison, inshallah ta'ala. Ça, c'est quand on est avec les gens. Sinon, quand on est seul, il faut pas écouter Shaitan. Shaitan qui te dit, tu fais ces choses à cause de ceci, cela, c'est pas vrai. Je suis seul, je les fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour les gens. Je suis seul, donc j'écoute pas le Shaitan, bi'illahi ta'ala. Est-il vrai que Cheikh Al-Albani rahimahoullah a changé d'avis concernant le sitar dans un de ses livres? Et qu'il a été d'avis que c'est obligatoire? Je n'ai jamais entendu cela. Naam. Je n'ai jamais entendu ni lu dans un des livres de Cheikh Al-Albani, ni entendu de ses élèves qui le suivent pas à pas, lettre à lettre, que Cheikh Al-Albani rahimahoullah a dit cette chose. S'il y a quelqu'un qui connaît où Cheikh Al-Albani a dit cette chose, qu'il nous le montre, bi'idhnillahi ta'ala, pour qu'on le montre aux gens, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il y avait une personne qui m'avait posé des questions sur des invocations. J'ai pas pu répondre car je dois lire de mon téléphone quelque chose et le téléphone n'était pas chez moi. Al-Muhim. Maintenant donc, je dis, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc la personne a dit en ce sens. Elle a dit que d'habitude, quand elle fait les invocations du matin et du soir, elle lit tout ce qu'il y a dans le livre. Je pense, elle n'a pas cité le livre, mais peut-être du livre, yani, la citadelle du croyant. Hisn al-Muslim, ou le du musulman. La citadelle du musulman. Wallahu alam. Ensuite, elle a dit qu'elle a entendu dans un de mes cours dire que ce n'était pas nécessaire qu'elle lise tout. Qu'elle lise tout. Alors elle dit que maintenant, puisqu'elle était habituée à lire tout, et maintenant qu'elle prend de mon avis qu'elle ne lit pas tout, donc elle ne sait plus où se limiter. Quoi dire, quoi ne pas dire, etc. C'est devenu un mélange chez elle. Chez elle. Donc je dis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, moi quand j'ai dit que ce n'était pas nécessaire, non, il faudrait d'abord savoir que le fait de lire les invocations matin et soir, c'est très important, mais ce n'est pas obligatoire. Ça aussi, il faut le savoir. Comme je sais que ce n'est pas très important, je dois aussi savoir que ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, je n'ai pas de péché. Pour pas qu'une personne, il y a le rapport authentique. Je n'ai pas compris ce que ça veut dire, ça, Fawzi. Donc, Non. Pourquoi on doit savoir qu'une chose n'est pas obligatoire? Comme ça, pour que quand on la fasse comme elle l'est vraiment. C'est-à-dire, si elle est obligatoire, elle est obligatoire. Si elle n'est pas obligatoire, elle n'est pas obligatoire. C'est pour cela que, pour suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on le suit dans deux choses. Dans l'apparent. L'apparent, c'est quoi? L'apparent, par exemple, s'il a fait Doha, deux rak'at, je fais seulement deux, pas trois. Ça, c'est l'apparent. L'intention. Pourquoi il a fait salat Doha? Il l'a fait. Car c'est une salat obligatoire ou là, pas obligatoire? Car si maintenant, une salat, par exemple, qui n'est pas obligatoire comme Doha, ou bien les Tarawih, si je vais les faire avec l'intention que c'est obligatoire, donc dans ce cas, je n'ai plus de récompense. J'ai même des péchés. Ou alors le contraire, je vais faire salat al-dhuhr avec l'intention que c'est seulement nafila. Donc ça, j'ai pas fait dhuhr. Donc, je dis encore une fois, là, que quand une chose, par exemple, elle est seulement sunnah, c'est-à-dire pas obligatoire, il faudrait qu'on la fasse avec la niyyah que c'est pas obligatoire. Comme les invocations du matin et du soir. Deuxièmement, j'ai lu chez certains savants que c'était permis de lire toutes les invocations. Chez certains. Ou alors chez un savant, j'ai lu ça. Donc ça réconforte la personne qui a dit que elle lisait toutes les invocations. Donc je lui dis encore, si elle lit toutes les invocations, ça ne fait rien. C'est aussi permis. Peut-être qu'elle a des. C'est pas peut-être, c'est sûr qu'elle a des récompenses pour ces efforts qu'elle fait. Mais moi, seulement ce que j'ai dit, c'était pas yani, obligé ni nécessaire de tout lire. Ensuite, quand on lit, si on lit par exemple d'un livre, le classement n'est pas encore obligatoire, n'est pas aussi obligatoire le classement. L'auteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché dans les livres et il a vu, yani, qu'a dit le prophète Islam pendant la journée. Qu'est-ce qu'il disait? Il a commencé à écrire. Ça ne veut pas dire qu'il les a classés, qu'on doit commencer par cette doua et terminer par exemple par cette doua. Ça aussi c'est important. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah dit dans une de ses fatwas, quand on lui a parlé des invocations qu'il y avait dans la salat, il a dit qu'il fallait changer, naam, et qu'il ne doit pas marcher toujours sur les mêmes invocations. Il a dit, car s'il marche toujours sur les mêmes invocations, il a dit, ça devient chez lui, ça devient une habitude. Une habitude, c'est pour ça il a dit que s'il s'oublie un instant, il va trouver qu'il est en train de faire ses invocations sans qu'il le sache. Sans qu'il le sache, maintenant ça court sur ses lèvres. Ça court sur ses lèvres, tellement ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours les mêmes qu'il répète. Donc ça va vite courir sous ses lèvres et il va les dire, subhanallah al-azim, il va les dire sans aucune méditation. Sans aucune méditation. Moi-même, ça m'arrive. Moi-même, qui suis en train de vous parler, ça m'arrive. Quand des fois je vais aller, yani, quand des fois je vais au lit, des fois je lis certains sourates. Je lis certains sourates. Tellement je suis habitué à les lire. Sans, yani, hatta, au point où quand je les termine, je me dis quoi? J'ai terminé la sourate. Je l'ai lu. C'est par là, tellement vite. Sans y penser, sans y méditer. Pourquoi? C'est devenu une habitude. C'est pour ça que c'est bien de changer. Par exemple, aujourd'hui, je lis par exemple telle et telle, telle sourate. Bien sûr, de celles qui sont spéciales pour le fait de s'endormir. C'est pas je vais lire celle du matin, par exemple. Non. Si le prophète a lisé beaucoup de sourates, tant que je choisis aujourd'hui celle-là, demain celle-là, demain celle-là, vont dormir comme ça. Ou alors cette semaine celle-là et celle-là. Pourquoi? Pour que ça ne devienne pas une habitude et que je commence à être robotisé. Je vais lire comme ça, comme le robot. Regarde, je vais prendre par exemple le livre de Hisn al-Muslim. Hisn al-Muslim. Il commence comme ça. Alhamdulillah, wa salatu salam ala man la nabiyya ba'da. Ensuite, il dit en bas que le prophète alayhi salam a dit que si je reste avec des gens, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala du matin jusqu'au lever du soleil, c'est comme si j'avais affranchi quatre des enfants d'Ismaël. Et que je reste le soir à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala depuis salat al-asr jusqu'au coucher du soleil, c'est comme si j'ai affranchi quatre. On prend de ce hadith quoi? On prend de ce hadith que les meilleurs, ou le meilleur moment des invocations du matin, c'est après Salat al-Fajr, c'est-à-dire Subh, jusqu'au lever du soleil. Et que les meilleures invocations pour le soir, c'est après Salat al-Asr, jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil. Ce sont les meilleurs moments des invocations du matin et du soir, d'après le hadith que vous avez entendu ici. N'empêche que, si des fois par exemple je me suis endormi et je ne me suis pas réveillé jusqu'à 9h du matin ou là, ça ne veut pas dire que je vais laisser passer les invocations. Car il y en a qui disent que c'est permis jusqu'au dhuhr. Il y en a qui disent que c'est permis jusqu'au dhuhr. C'est pour ça que je profite pour ne pas les laisser passer. Ensuite, il a dit, il a lu, il a dit qu'on lisait. Pourquoi je vais vous lire ça un peu? Pour que si vous avez le livre avec moi, vous qui m'entendez, si vous avez Hisn Muslim, vous allez corriger certains hadiths qui sont faibles. Qui sont faibles. Il a lu, il a dit, Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Très connu. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Il a dit que le prophète a dit, quiconque l'a dit le matin, il sera préservé des djinns, du djinn, jusqu'au soir. Et quiconque l'a dit, c'est-à-dire l'a lit, quiconque lit Ayatul Kursi, le soir, il sera préservé du djinn jusqu'au matin, jusqu'au matin. Ensuite, il a dit, قل هو الله أحد, on lit, قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, trois fois. قل هو الله أحد, قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, ensuite on revient. قل هو الله أحد, قل أعوذ برب, comme ça, trois fois. Il a dit, من قالها, quiconque l'a dit trois fois, le matin et trois fois le soir, kafetho, ça va lui suffire pendant cette journée-là, ou là, ce soir-là. Ça va lui suffire et le suffire. Le suffire aussi de tout mal. Lui suffire et le suffire. Je profite ici pour vous dire qu'il est de la sunna. Quand vous faites la prière, quand vous faites la prière obligatoire, pas nafila, quand vous terminez une prière obligatoire, il est de la sunna de dire, comme vous savez, subhanallah, subhanallah, subhanallah. عفوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. Ensuite il y a des doua aussi, et ensuite on lit certains versets, entre autres on lit ayatul kursi, celle-là, et on lit aussi ces trois sourates trois fois, قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, trois fois dans toutes les salats, صبح ظهر عصر مغرب بعشاء, on les lit trois fois. طيب. Ensuite, il a dit, Subhana wa subha al-mulku lillah, alhamdulillah, etc. Le hadith, les tawil, et que le soir, on dit, Amseina, Amsa, on dit le contraire, Amseina, Amsa al-mulku lillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Il a dit ici, une seconde. Une seconde, qu'est-ce qu'il a dit ici? Non. Ensuite, il a cité une autre invocation, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilayka an-nushur. Ça aussi, ça se dit. Ensuite, il a dit, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika mastata'a. Bon, le hadith que vous connaissez tous. Naam. Ensuite, il a dit, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la sharika lak. Il a dit, on lit ça quatre fois. Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit, ça c'est laïf, ça c'est faible. La dua, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamlat arshik wa malaikataka wa jami' khalqik, il a dit, c'est une dua faible. Faible. Quand on dit faible, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on ne doit pas se mettre dans le cœur que 100% le professeur l'a dit, mais seulement à 50%. À 50%. Peut-être qu'il a dit cette chose, à 50%, peut-être qu'il ne l'a pas dite. Donc, je dis donc. Donc maintenant, si je la lis moi, par prudence, sans dire aux gens qu'il faut la lire, mais je la lis en me disant, si le professeur l'a dite, alhamdoulilah, j'aurai donc les récompenses. S'il ne l'a pas dit, peut-être que Allah Ta'ala va me donner la récompense de l'intention. Pourquoi? Parce que c'est dans les invocations, c'est tout. Mais si c'était dans le fiqh pour prendre un jugement du fiqh, ou alors dans la aqida, ce serait interdit, interdit de se baser sur quelque chose de laïf. Vous avez compris? Dans la aqida et dans le fiqh, c'est interdit de se baser sur quelque chose de laïf. Mais dans les invocations, quelques-uns, quelques savants ont permis. Comme l'Albanie, non. L'Albanie, il dit non. Il dit même dans les avocats, dans tout où il y a daif, on ne se base pas. On ne se base pas sur le daif. Que ce soit invocation, que ça, il a dit ça, lui et Ibn al-Arabi, al-Maliki, al-Bukhari, certains grands savants, ils ont dit non. On se base seulement sur l'authentique. Mais, comme je vous ai dit, beaucoup, beaucoup ont permis que si c'est seulement dans des invocations, par exemple, ou des choses comme ça qui. C'est pas des règles et des jugements, non. Ce n'est ni fiqh ni aqida. Ils ont dit c'est permis. Wallahu alam. Ensuite, il a cité le hadith Allahumma, ma asbaha bi min ni'matin bi ahadin min khalqik, fa minka wahdaka la sharika lak, falaka alhamd wa laka ash-shukr. Cheikh Al-Albani a dit c'est daif. Ce hadith c'est daif, cette invocation c'est daif. De préférence, on ne la dit pas. Ensuite, on peut dire l'autre. Allahumma afini fi badani. Ya Allah, préservez-moi dans mon corps. Ya Allah, préservez-moi dans mon ouïe. Ya Allah, préservez-moi dans ma vue. Et comme ça. Il a dit trois fois. Trois fois. On dit ça trois fois. Ensuite, il a cité une doua. Hasbi Allahu la ilaha illahu. Alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Sept fois. Sept fois. Il a dit c'est daif, il a dit c'est faible. C'est faible, Cheikh Al-Albani. Il dit cette doua, il a dit c'est faible. Qu'on dise cette chose sept fois. Ensuite, il y a Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyya fi d-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyya fi d-dini wad-dunya. Il a dit c'est authentique. Et après cela, Allahumma 'alim al-ghaybi wa shahada fatir samawati wal-ard. Non, c'est authentique. Bismillah alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ard wa la fis samai. Trois fois. Naam. Trois fois. Qui dit ça? Ces choses-là, trois fois le matin. Attendez. Et trois fois le soir. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala va sûrement, quoi? Yani, le ravir yawm al-qiyamah. Ensuite, il y a une doua. Raditu billahi rabban. J'agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. L'islam, dinan. Et Muhammad sallam, nabiyyin. Trois fois. Cheikh Al-Albani a dit, quant à la doua, elle est authentique en elle-même. Mais trois fois, non. Une seule fois. Il a dit trois fois, c'est faible. On dit une seule fois, Raditu billahi rabban, bil islami dinan, wa Muhammad sallam nabiyan. Moi, je connais un hadith authentique que Cheikh Al-Albani a dit. Il a dit, il est bon ou bien authentique. Il a dit que quiconque dit le matin, il a dit le matin, pas le soir, il a dit, quiconque dit le matin, j'agrée Allah subhanahu wa ta'ala comme Seigneur. Et l'islam comme religion, et Mohammed comme prophète, il a dit Nabi, pas messager, Nabi, il a dit, alors Yom al-Qiyama, c'est moi qui le prendrai de ma main, personnellement, pour le faire rentrer au paradis. Allahu Akbar. Naam. Ensuite, Ya Hayy Ya Qiyoum, bi rahmatika astaghith, Allahumma islih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat ayn abadan. Ensuite, Asbahna asbah al-mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka khayra hadha al-yawm. Il a dit c'est daif, Cheikh Al-Albani. A dit c'est daif, cette doua-là. As'aluka khayra hadha al-yawm, fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatuhu. Il a dit c'est daif. Ensuite, Asbahna ala fitrat al-islam, wa ala kalimat al-ikhlas, wa ala dini nabina Muhammad. C'est sahih. Subhanallah bihamdihi, 100 fois. Sahih. La ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa alhamdu ala kulli shay'in qadir. 10 fois. Ou bien une seule fois dans la paresse. Si on ressent de la paresse, on lit ça une seule fois. Et la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu al-mulku wa alhamdu ala kulli shay'in qadir. 100 fois, 10 fois. 10 fois, 100 fois. Quiconque l'a dit 100 fois, naam, fi yawmin, dans une journée, alors c'est comme si quoi? C'est comme s'il avait affranchi 10 personnes. Naam. Et ça va lui être écrit sans récompense. Miet Hassana. Et Allah Ta'ala va lui enlever sans péché. Et ça lui sera une préservation du shaitan. Du matin jusqu'au soir. Et personne ne sera mieux que lui. Sauf si quelqu'un va dire ça plus que lui. Plus que lui. Et la doua est très belle. Subhanallah bihamdihi adada khalqih wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midat kalimatihi. trois fois seulement le matin. C'est authentique. Et astaghfirullah wa atubu ilayh 100 fois. C'est authentique. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. C'est authentique. A'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq. Trois fois le soir. Trois fois le soir. Ou bien à chaque fois qu'on va à un endroit, par exemple dans une forêt, dans un ravin, dans enfin, des endroits où il y a par exemple des scorpions, il y a des serpents, etc. Naam. À chaque fois qu'on va dans un endroit pareil, on dit cette phrase, le 7 doigts. On dit A'udhu bi kalimati tammat min sharri ma khalaq. Et le grand savant que vous connaissez, le Qurtubi, vous connaissez le Qurtubi, le grand savant, il a dit quoi? Il a dit jamais je n'oublie cette doigt-là, cette invocation, quand je vais quelque part ou je voyage. Il a dit une seule fois, je l'ai oublié dans un voyage, il a dit un scorpion m'a mordu, ou là m'a piqué. Il a dit, pour la première fois que je l'ai oublié, un scorpion m'a piqué, subhanallah al-azim. Ensuite, 10 fois, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, voilà ce que je voulais dire, inshallah ta'ala. La personne, yani, elle lit ce qu'elle peut, naam, elle lit ce qu'elle peut, et en se mettant dans la tête que, yani, ce n'est pas obligatoire, que je peux lire et sauter, je peux commencer par la fin et aller au début, et que je peux aujourd'hui lire certaines choses, demain certaines choses, sauf bien sûr les choses, comme elle a cité elle, les choses qui, yani, qui se lisent yani, tout le temps, comme ayat al-kursi, comme par exemple Asbahna, Asbahna al-Mukulila, quand on se réveille, ou l'alhamdoulilah, ou bien le hadith, quiconque dit 7 jours le matin, quiconque dit 7 jours le soir, il a telle et telle chose. Non. Et si la personne veut tout lire, alhamdoulilah aussi, ce n'est pas un dit de tout idnillah. Tfakkar les 3 dernières questions, inshallah. 3 dernières questions, inshallah ta'ala, on termine. Tfadlal.
Donc les 3 questions suivantes. Question d'une sœur, assalamu alaikum, cher. Qu'Allah ta'ala vous récompense. Ma question concerne le rattrapage du jour de Ramadan. En effet, je suis tombée enceinte environ un mois avant le Ramadan, mais je n'avais pas rattrapé la totalité des jours manqués de l'an passé. Et durant ma grossesse, je ne pouvais pas jeûner, même au début, car j'avais des problèmes médicaux. Après cela, j'ai dû allaiter mon bébé. Ma question est donc, dois-je rattraper et donner une somme d'argent par jour manqué? Et si oui, puis-je envoyer cet argent au Maroc? Barakallahu fikoum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question d'une sœur. Les femmes se déplaçaient-elles seules ou en monture à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Seules en monture à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, peut-on, nous les femmes, se déplacer en voiture? Barakallahu fikoum. Question suivante et donc la dernière. Salam alaikum cher. Question d'une sœur. Quel est l'avis des savants sur le fait de comparer un enfant à un ange? Dire par exemple, ce sont des anges, en sous-entendant qu'ils n'ont pas de péché, jazakumullahu khairan. Tfadal Cheikh.
Donc pour la première question, quand une femme a des dettes de siyam, des dettes de siyam, de jeûne, elle devrait faire, inchallah ta'ala, son possible. Pourquoi? Pour les rattraper juste après le Ramadan si elle peut. Naam. Juste après le Ramadan si elle peut. Au point où Cheikh Ibn Uthaymeen rahmallah a dit que elle ne peut pas jeûner les 6 jours de Shawwal si elle n'a son din, si elle n'a pas jeûné son din, c'est-à-dire si elle n'a pas payé ses dettes. Si elle n'a pas payé ses dettes. Donc, inshallah ta'ala, il ne faut pas qu'elle se laisse aller comme ça, car les âmes sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la personne, si elle meurt endettée, c'est pas bien pour elle. Si elle meurt et elle n'a pas payé ses dettes de siyam, c'est pas bien pour elle. Mais, inshallah ta'ala, dès que et qu'elle a les moyens de jeûner, elle commence vite par rattraper ses dettes pour que yani, elle puisse jeûner les 6 jours de Shawwal. Même si elle ne jeûne pas les 6 jours de Shawwal, pour que devant Allah, elle est là, inshallah ta'ala. Ensuite, cette personne dit, est-ce qu'elle doit rattraper Et payer en même temps de l'argent ou pas? Payer de l'argent, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça, ni dans le verset, ni dans le hadith. Il y a pour une femme, jeûner, il y a ou bien rattraper, nourrir un pauvre, si quoi? Si elle était enceinte, ou bien si elle allaitait. Quand une femme allaite pendant le ramadan, ou bien qu'elle est enceinte, et qu'en plus de cela, elle a peur pour elle ou pour son bébé, et qu'elle a mangé dans ce cas, elle peut nourrir au lieu de rattraper. Et d'autres savants, comme Cheikh Ibn Othaymine a dit, elle rattrape. Mais ceux qui ont dit elle rattrape n'ont pas dit qu'elle sortait aussi une aumône pour chaque jour manger. Mais maintenant, si elle veut, elle, de son plein gré, sortir une aumône pour chaque jour manger, elle est libre. Et si elle veut l'envoyer au Maroc aussi, elle est libre. Elle est libre, naam. Pour la deuxième question, ou l'autre question, les femmes se plaçaient-elles seules en monture à l'époque du prophète sallam? Peut-on, nous les femmes, se déplacer en voiture? Je dis, comme a dit Allah, sa phrase célèbre. Non, sa phrase célèbre. D'abord, je pose à Muslim la question. Muslim, comment qu'on dit une ânesse en arabe? Comment on dit ânesse? Si tu ne sais pas, dis-moi comment qu'on dit un âne. Le himar. L'âne. Ça. En arabe littéraire, on dit eten. Eten, mais eten, pas tout le monde connaît ça. Mais dans l'arabe comme ça, dialectique, donc l'âne, on dit himar. Et l'ânesse, on dit himara. C'est tout, on ajoute là. On ajoute toujours à la fin, comme teflon, tefla. Vous avez compris? El-Muhim, el-Himara, donc on dit Himara, ça veut dire ânesse. Cheikh Al-Albani, quand on lui a posé la question, est-ce que la femme conduit? Il a dit, celle qui a conduit el-Himara peut conduire Siyara. Vous avez compris? Il a dit, celle qui a conduit el-Himara, l'ânesse, lui est permis de conduire Siyara, la voiture. Quelle est la différence? Si la femme, il lui était permis au temps du prophète Islam de monter sur une ânesse, ou là, sur une mule, ou là, un cheval même, et de marcher. Donc, quelle est la différence entre l'âne et la voiture? Sauf bien sûr, si elle sait qu'elle va voyager. Elle va voyager. Ou alors elle sait qu'elle fait des déplacements dans des endroits, yani, où il y a les voyous, où il y a les comment ça s'appelle, les agresseurs, etc., etc. Ça devient haram. Pas le fait qu'elle conduise. La conduction en elle-même n'est pas haram. Mais ça devient interdit le fait d'être allé là-bas. Et de s'être jeté dans quoi? Dans ce problème-là. Vous avez compris? Donc il y a une différence entre les deux, Inch'Allah. Reste la dernière question. Quel est le savant sur le fait de comparer un enfant à un ange en disant par exemple que ce sont des anges, en sous-entendant qu'ils n'ont pas de péché? Si on veut dire d'un enfant que c'est un ange, et sous-entendu qu'on veut dire par là qu'il ne fait pas de péché, comme l'ange ne fait pas de péché. Dans ce cas, c'est vrai. Non, tu n'as rien fait de grave. Tu as dit qu'il est comme l'ange, il ne fait pas de péché. J'ai pas dit qu'il est comme l'ange dans sa force, ou là, dans sa lumière, ou là. Non. J'ai dit, c'est-à-dire, il lui ressemblait dans le fait, ils ont un point commun, c'est que les deux ne font pas de péché. Et encore, la ressemblance ici n'est pas à 100%. Pourquoi? Parce que l'enfant, celui-là, yani, c'est la plume qui est levée, c'est tout. La plume qui est levée sur lui. C'est pour ça qu'il ne fait pas de péché. Donc, va arriver un jour où la plume va commencer à fonctionner, il va faire des péchés. Tandis que l'ange, toute sa vie ne fera pas de péché. Toute sa vie ne fera pas de péché. Il n'y a pas une plume comme ça qui l'attend pour qu'il devienne pubère. Donc, aussi, si on dit d'une personne ou d'un enfant, on dit de lui que c'est un ange en voulant dire qu'il est beau. Beau comme un ange, car les anges sont beaux. Ils sont créés de lumière. C'est pour ça que les femmes, quand la femme du ministre, a voulu faire le péché avec notre prophète Youssef alayhi salam. Et qu'il n'a pas accepté. Il a dit, j'ai peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que les femmes ont parlé d'elle. Elles ont dit, elle n'a pas honte celle-là. La femme du ministre a voulu faire le péché avec yani, son valet. Alors pour apaiser la rage qu'elle avait dans le cœur, elle les a invités, comme vous connaissez l'histoire, dans un salon, dans son salon, comme quoi c'était une invitation, etc. Elle leur a préparé des fruits et des couteaux aussi, pour que, yani, elle avait quoi? Elle avait un plan dans sa tête. Et elle l'a paré. Il s'est bien habillé, elle lui a dit, quand je te fais un signe comme ça, rentre, rentre dans le salon. Et quand elles ont commencé à manger, et à éplucher les oranges, ou bien les pommes, ou bien les poires, elle lui a fait un signe de rentrer. Quand ils l'ont vu, qu'est-ce qu'elles ont dit? Mahada Bachara. C'est pas possible que ce soit un être humain. In huwa illa malakun karim. Ce n'est qu'un ange. Elles l'ont comparé à un ange. Pourquoi? Dans sa beauté. Ici, c'est pas dans le fait qu'il fait pas de faute, mais dans sa beauté. Donc, ça se voit que on a tous dans le cœur, ancré dans le cœur, que les anges sont beaux. Que les anges sont beaux. La preuve, ces femmes ont dit de lui, c'est pas un être humain, c'est un ange. Tout le monde sait que les anges sont beaux et ils ont été créés de lumière. Voilà pour aujourd'hui, on arrête, Inch'Allah Ta'ala, ici, Bidla Ta'ala. Je m'excuse si je n'ai pas répondu aux autres questions. On va laisser, Inch'Allah Ta'ala, cela pour samedi, Bidla Ta'ala. Tfadlal, Muslim. Tfadlal, je te donne le micro.
Allah vous récompense grandement. C'était juste pour savoir où étaient passés les voyous, car on ne les entend plus, je voulais savoir où ils étaient passés.
Ça, c'est une bonne question, Barakallahu fik. Naam. De toute façon, aucun de vous n'a cherché un voyou. Comment qu'on dit ça? C'est pas éduquer. Comment qu'on dit, par exemple, faire venir, par exemple, adopter, exactement. Aucun de vous n'a dit, je vais, Inch'Allah Ta'ala, je vais lui demander de me donner un voyou à la maison. Personne n'a demandé. Mais, sachez que, alhamdoulillah, sachez que, alhamdoulillah, ça fait à peu près 20 jours. Ça fait à peu près 20 jours. Deux frères sont venus, Jumu'a, un vendredi, manger avec moi à la maison. Quand ils ont terminé le manger, ils ont vu les sept voyous. Sept voyous, il faut qu'ils rentrent à la maison. Il faut qu'ils rentrent dans le salon. Trois voyous, par deux voyous par la porte. Et moi, ils ont dit, Subhanallah, tout ça c'est quoi? J'ai dit, Naam, je suis vraiment dans un problème, un grand problème. Si vous pouvez m'aider, mes frères et mes sœurs, les grands problèmes que j'ai, Naam. Ils ont dit, c'est quoi ici de ce problème? Je dis, avant de partir, Inch'Allah Ta'ala, je vais vous donner comme cadeau chacun un petit voyou, et de la ville où vous êtes venus, dites aux frères qui me connaissent tous là-bas, parce que j'étais imam là-bas dans leur ville. Je leur ai dit, dites-leur que Cheikh vous dit de venir vendredi, Inch'Allah Ta'ala, il vous invite. Et comme ça, chacun de vous, quand il va partir, il va lui donner un cadeau, un petit voyou. Et deux m'a dit, donc, si vous avez, Alhamdoulilah, donnez-nous, donc les deux. Mais quelqu'un m'a dit des deux. Il m'a dit, donc pourquoi le problème? Donc si vous voulez, mettez-les dans un carton, je les prends, puisque moi j'ai une villa. J'ai une villa, j'ai un jardin, c'est plein de voyous chez moi. Lui aussi, il a déjà plein de voyous là-bas. Donc, si tu veux, yani, je les prends tous. Donc, ils étaient sept. J'ai dit, j'ai dit attention, mais parmi les sept, il y a un des voyous plus petits. Subhanallah, ils sont sept de la même taille, mais six de la même taille, et quelqu'un de petit, vraiment petit. Et on m'a dit, c'est toujours comme ça, quand c'est 6 ou 7, toujours, ça donne 5 ou 6 grands et toujours petit. Et ce petit, subhanallah, même pour manger ou là, il avait des difficultés. Tellement, il trouvait pas sa place. J'ai dit donc, laissez-moi le petit, inshallah ta'ala, et prenez les 6. Donc, ils m'ont débarrassé 6 voyous, alhamdoulilah. Il n'aurait pas. Donc, il va pas tarder, inshallah ta'ala, inshallah ta'ala. Donc les 6, non, wallah, je les ai oubliés. Voilà, je les ai oubliés les premiers jours. Si, la semaine, la première semaine après les avoir pardonné. Maintenant, je pense à ce dernier qui est chez moi, avec sa mère. Bien sûr, sa mère, elle restera toujours chez moi. Mais le dernier qui est aussi une chatte, qui est aussi une chatte. Celle-là, je vais la donner, inchallah, bientôt. Et celle-là, elle va me manquer, inchallah ta'ala, mais c'est pas de ma faute. Elle doit partir, bidnillah ta'ala. Donc, hak inchallah ta'ala, nhar sept, subhanak wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaykum wa rahmatullah.